Bonjour, je suis Julien Parra et vous écoutez La Voix des Bulles.
Bonjour et bienvenue au One Eye Club, le podcast BD bimensuel qui pratique le triolisme.
Non, je refuse. Non, je suis désolé, je refuse totalement.
Quoi, ça te plaisait pas ?
Isaac, c'est... Isaac, un avis ?
Pareil, je refuse, mais catégoriquement. En plus, quand tu vois qu'on est obligé de se prêter le même micro avec Thio, à un moment donné, il y a déjà une forme de proximité que je trouve largement suffisante. Hein ?
Oui, vous êtes obligé de rapprocher vos bouches pour vous parler dans le micro.
Oui, non, mais là, le titre, il est poucrave, quoi. Non, tu...
Non, c'est pas grave. Bon, on le garde. Donc, je suis avec Isaac et Thio pour encore vous parler de BD pendant un temps indéterminé, mais sans doute suffisamment long. J'espère que vous avez passé 15 jours sympathiques et agréables. Nous, c'était 15 jours... on les a pas sortis passer, hein. C'est impressionnant.
Ouais, voilà, on a fait plein de festivals. On est à Don, on fait tout.
Ouais, c'est dingue. Ou pas.
Programme Diablo 3
programme de cette émission, nous allons parler de Goblins numéro 1 à 4 dans l'unité temps. Il y a un tome 5, mais je sais pas pourquoi. Ça, c'est à cause d'Adrien, il n'a pas acheté, il déconne. Dans les bacs, on vous parlera de Pierre Goldman, La vie d'un autre, de Walking Dead numéro 15, d'Invincible numéro 6 et de Chin numéro 1. La splash page, nous parlerons de Julien Parra et de deux de ses bandes dessinées, enfin ses deux bandes dessinées, en fait, Trois Instincts et Chambre à deux, et une petite interview réalisée par notre ami Thio suivra. Matt nous parlera sans doute de I'm a Hero, mais on verra. Et en hors-sujet, refais-le comme tu l'as fait il y a deux secondes, le hors-sujet, nous allons parler de...
Hein?
Vas-y, fais-le.
Ah, c'était Diablo 3, mais Diablo 3, il est nié, je suis pas...
Excuse-moi, là j'ai dormi 3 heures. 3 Diablo 3 heures.
Ok.
Ok, ça.
Fais attention à ce que tu dis, ça va être diffusé publiquement tout ça.
Ouais.
Donc.
Non, je ne suis pas enseignant. Non, je ne suis pas enseignant.
Je crois qu'on va enchaîner de suite parce que là j'ai pas compris.
Je pense que c'est pour que ses élèves en fait ne le reconnaissent pas. La hiérarchie, tu vois, le droit de réserve, plein de trucs à la con comme ça quoi.
Il était temps. Nouvelle œuvre de la bande dessinée ancienne.
Goblins numéro 1 à 4. Putain, ça m'a encore cassé. En plus, tu fais saturer ce con de micro en hurlant dedans. Super. T'as un pote.
Tu fais bien le jingle.
Donc, on va parler de Goblins.
Ouais, c'est le mec qui un jour, faudrait que je le fasse monter une émission pour qu'il comprenne la misère que ça peut être. Quoi. Hein, au lieu de jouer à Diablo 3.
Diablo 3 !
Putain, vous allez tuer les auditeurs, c'est incroyable. Goblins.
Mais tu te plains toujours qu'on n'a pas assez de son.
Numéro 1 à 4, donc, car nous les avons volés à notre ami Adrien.
Non, Monsieur A, rappelle-toi.
Monsieur A, oui, Monsieur A.
C'est Monsieur A qui était passé une fois dans une émission et qui avait eu un avis fort intéressant, mais qu'on avait perdu de vue depuis.
Voilà, alors le 1, en fait, je crois qu'on lui a rendu entre-temps, donc on l'a pas entre les mains, mais il est bien aussi. Mais qu'est-ce que nous raconte Goblins ? Goblins, ce sont les aventures d'une bande de gobelins qui ne servent qu'à une chose, c'est se faire tuer.
Ouais.
Par les aventuriers.
Au départ, c'était dans Landfast Mask.
Ouais, c'est pas toujours dans Landfast Mask. Je sais pas si ça continue, mais bon.
Bah, c'était au début. Après, je sais pas si ça y est encore, parce que je t'avoue, j'ai arrêté d'acheter depuis quand même pas assez longtemps. Et non, c'est vrai que c'est très, très.
T'as de la barbe.
C'est un signe. Voilà. Au revoir. Ouais. Vas-y, je te laisse continuer, c'est ta chronique.
Donc, c'est une bande dessinée de Rouleau et Martinage, publiée chez Soleil, vu que c'était dans l'Enfeust, qui nous raconte les mésaventures de ces gobelins, la plupart du temps en gag en une planche. Et. Dans chaque tome, on a une histoire un peu longue, sauf dans le tome 4 où c'est une histoire complète. Voilà. Ces gobelins, au niveau du genre, on a mis que c'était de l'Heroic Fantasy Schtroumpf. Car nous avons toutes les caractéristiques de l'Heroic Fantasy, hein, avec les aventuriers, le sang, la quête, tous les clichés qu'on peut avoir là-dedans, l'élu,
etc. Ouais.
Et le côté Schtroumpf, c'est-à-dire qu'ils se ressemblent tous, mais ils ont tous des particularités. Donc on n'a pas le gobelin à lunettes, mais on a le gobelin ingénieur.
Ouais.
On n'a pas la Schtroumpfette, mais on a l'élu.
On a le chaman.
Qui est le seul gobelin avec des cheveux. On a et qui parle pas. On a le chaman.
T'as le chef.
Le chef. Il y a Gobelin des Bois.
Gobelin des Bois. T'as le ninja aussi.
Oui, le ninja, oui. Il y a un gobelin ninja. Voilà.
Mais ils ont un point commun. Ils se font poutrasser la gueule.
et il meurt régulièrement et ils peuvent revenir en fait parce qu'apparemment il explique dans un des épisodes que quand il meurt il meurt pas en fait, ils reviennent parce que personne veut d'eux.
Oui, parce qu'en fait au paradis ou en enfer tout le monde les jette.
Voilà, ils ont pas d'amis. Et donc on suit ces aventures de ces pauvres gobelins qui essayent de vivre leur vie, de s'insérer dans la société médiévale et qui ont un mal super fou à le faire. C'est une bande dessinée que j'ai trouvée particulièrement drôle. Au niveau du scénario, j'ai mis Dungeon Keeper.
J'ai mis des mots en war.
Ouais.
Défoulatoire et jubilatoire.
Voilà. C'est vraiment. J'ai retrouvé un peu le côté Croque le Beau, sauf qu'ils sont toute une équipe. Croque le Beau, pour ceux qui connaissent, c'était une BD de Chevalier et Ségur qui passait dans Cassius Belli et qui était sortie chez Delcourt en un album. Chevalier et Ségur, que nous connaissons aussi pour. Je trouve plus le nom, mais nous les connaissons pour ça. Voilà.
Ça va revenir
aussi. Hein. C'est putain de BD. Hein. Il y a même eu un jeu de rôle. Donc. Voilà là-dessus. Le dessin, j'ai mis que c'était toonesque.
J'ai mis que c'était du style gore vert.
Oui, c'est vrai que c'est gore, hein, parce que ça saigne. Hein.
Il y a du sang dans tous les sens. C'est très coloré. Hein, c'est ça que je trouve assez rigolo. Le côté schtroumpf est là, c'est-à-dire qu'effectivement, on est dans cette ambiance très bon enfant, sauf qu'il se marave la gueule, il s'égorge.
Et l'usage des couleurs complémentaires, le rouge et le vert, permet de faire ressortir le côté esthétique particulier de ces gobelins.
Ah, c'est encore le Pyrrhic québécois qui est venu parmi nous.
Je n'aurais pas dit québécois, mais bon.
Ouais, non, j'ai plutôt dit italien. Enfin, après, c'est personnel comme avis.
Ah, t'es sûr que c'était un italien, ça ?
Bon, allez, on passe. Et donc, moi, par contre, le seul truc, c'est les lapins, je trouve, ne sont pas du tout respectés dans les gobelins. Je trouve que c'est pas acceptable, ça, par contre. On n'a pas le droit de maltraiter les lapins.
C'est bourré de clins d'œil aussi.
Exactement.
Il y a des clins d'œil dans tous les sens. Par exemple, il y a un des lapins gros géants, c'est Big Bug Bunny, je crois, le dessin animé qu'ils avaient fait pour le projet Blender. Alors, en plus, là, c'est dans le genre le clin d'œil faut connaître. Il y a des clins d'œil dans tous les sens. La particularité donc du tome 4, c'est que c'est une histoire complète qui est la quête de la Terre Promise, où en gros ils partent à la recherche de la quête de la Terre Promise, et c'est vraiment fait comme
la Bible,
l'Ancien Testament, mais sauce gobelin quoi. Donc c'est complètement débile, totalement irrespectueux.
Oui, mais quelque part, enfin, ça colle quand même vachement au texte quoi.
Oui, oui.
Je veux dire, enfin, c'est irrespectueux et c'est totalement débile. Mais ça colle beaucoup à l'Ancien Testament quand même.
Non, il colle pas mal. Voilà. Si franchement vous souhaitez passer un moment sympathique, pas prise de tête,
ou chercher une idée cadeau pour des gens qui aiment bien un peu rigoler, voilà, en disant de la bonne BD.
Ouais, du Meuporg.
Parce qu'avec Super Carotte aussi.
Super Carotte. Oui, c'est bourré de blagues, et les tronches des gobelins sont géniales parce qu'ils sont tous. Plein de bonne foi, ils veulent tout. Oui, aussi le zoologiste, le zoologue, là, le dresseur, là, le gobelin dresseur. Enfin, ils sont tous plein de bonne foi, ils veulent vraiment être gentils et tout, mais à chaque fois, ils se font exploser la face parce qu'ils sont stupides.
Et qu'en fait, c'est leur rôle de se faire exploser la face.
Voilà, mais le gobelin ne sert qu'à ça.
Ça peut intéresser les étudiants en médecine aussi, plus précisément pour leur cours d'anatomie. Chaque organe est parfaitement bien dessiné et disséqué, hein. C'est vraiment magnifique. Et
oui, le mec est un fameux connaisseur. Dans les
bacs. Eh bien, nous passons donc à quelque chose d'un petit peu plus sérieux, hein, moins défoulatoire. Donc, Pierre Goldman, donc La vie d'un autre d'Emmanuel Moineau. Dès que je récupère la bande dessinée, je peux vous dire que c'est chez Futuro. Alors, ça nous raconte donc l'histoire de Pierre Goldman. Donc, c'est il faut quand même que je sois précis sur les termes. Donc, c'est un juif polonais donc, qui vit en France, oui. Qui n'est pas trotskiste. Qui est de gauche, qui a fait partie de la révolution au Venezuela, qui a fait partie de plusieurs syndicats étudiants.
De gauche.
Très de gauche, mais pas trop à gauche.
Enfin, gauche quand même, plutôt rouge. Hein. Voilà, du gauche, rose foncé.
Ouais.
Hein.
Rose foncé, rouge, mais pas...
À l'époque, rouge, ça voulait pas dire exactement la même chose que maintenant, je pense aussi.
Et donc voilà, un peu révolutionnaire, un peu aussi gangster sur les bords, parce qu'il a fait quand même plusieurs hold-up, il a aussi écrit deux livres. Et donc voilà, ce livre Pierre Goldman nous raconte la fin, on va dire, la deuxième partie de sa vie.
Il a aussi eu un rôle très important dans sa vie, c'est qu'il a été assassiné.
Oui, mais si tu me laisses finir, d'abord je place le personnage, ouais, si vas-y. Tu veux. Tu vois, c'est là que tu me racontes directement à la fin, ça clôt un peu le truc, quoi.
Ouais. Et voilà, donc c'est terminé sur Pierre Goldman. Merci Pierrick pour cette conclusion.
J'ai gâché le suspense, c'est ça ?
Ouais, c'est ça en fait. Alors, donc pourquoi le livre sur Pierre Goldman ? Parce que justement, en 1779, il va être assassiné en pleine rue. Alors, suite, certains le supposent, au meurtre donc d'un policier.
C'est pas un meurtre, il avait juste blessé.
Il a blessé un policier et il a été jugé innocent quelques années après suite à un deuxième.
La vraie problématique.
Un deuxième procès.
La vraie problématique, c'était qu'il avait été accusé d'un
crime.
D'avoir tué quelqu'un pendant un hold-up. Lui, il a dit j'ai fait des hold-up, mais pas celui-là et j'ai jamais tué. Et il aurait blessé un flic au milieu et le procès a duré un moment. Il a eu le soutien de toute l'intelligentsia de gauche de l'époque. Plein de stars.
Bah, Sartre, Beauvoir, Simone Signoret, Kouchner, Serge Julie, Krivine.
Voilà. Et c'est surtout un mec qui a eu une vie super variée, quoi. Et l'assassinat a été revendiqué par Honneur de la police. Ça fait classe, hein.
Mais je ne sais pas qui l'a tué. Oui. Voilà. Alors, donc, du coup, ce bouquin est fait, en fait, sur une enquête, en fait, de... voilà, merci. Et donc, il a rencontré les personnes qui ont fait partie justement des procès, qui ont fait partie de l'entourage donc de Pierre Goldman. Et il a construit, on va dire ça, son livre par des interviews des personnes, en faisant des petits croquis pour illustrer des passages en fait qui sont dessinés de la vie de Pierre Goldman et qui vont retracer, on va dire, sa vie un petit peu avant. Les événements, on va dire, où il va devenir un gangster, les deux procès, et ensuite sa sortie de prison et son assassinat dans les semaines qui vont suivre, je crois, parce qu'il sort quelques mois après, allez, maximum, mais pas tant que ça, quoi.
Moi, j'ai trouvé que, déjà, au niveau du scénario, c'est dense.
C'est très documenté. Alors moi, je suis pas du tout, on va dire, connaisseur de ce... des syndicats, de tout ce qui est trucs comme ça. Moi, j'ai découvert des trucs sur les années 60, 70, au niveau des syndicats, au niveau des personnes qui y étaient, qu'on retrouve d'ailleurs beaucoup, soit maintenant dans la presse, soit dans la politique actuelle, qui était donc étudiante à l'époque. C'est très, très riche. C'est un documentaire, quoi.
Et puis, le fait que ce soit construit autour des interviews, des rencontres, on a beaucoup de textes en fait, on a peu de passages BD, je trouve. Moi, c'est ce qui m'a un peu perturbé, c'est-à-dire je m'attendais à avoir une BD qui raconte le truc, et en fait il y a beaucoup de textes, donc c'est super intéressant. Mais quand on se chope le Pierre Goldman, faut savoir à quoi s'attendre, quoi. On se fait vite, on se rend compte, je voulais m'acheter une BD, quoi. Le texte est très dense. Bon, les illustrations sont sympas. On reviendra sur le dessin après. Toi, ça t'a du scénario.
Moi, j'ai trouvé ça super intéressant d'un point de vue historique. D'un point de vue documentaire, c'est énorme, quoi. Il y a une quantité d'informations. Moi, ça m'a parlé de trucs, je savais même pas ce que c'était. Du coup, il y a des moments où je suis allé sur Internet pour chercher un peu c'était quoi comme syndicat, c'était qui la personne qui nous parlait.
Et puis, comme tu vois, en plus, comment ça a amené à la situation politique de maintenant.
Il y a vraiment... c'est un bouquin qui est très, très riche. Mais du coup, quand Pierre me l'a passé, ça va faire plus d'un mois qu'il me l'a passé, pour le lire... c'est comme un vrai roman, quoi. Il y a une quantité d'infos qui
est hallucinante. Sauf qu'il est plus lourd et moins facile à transporter.
Ouais, voilà, on peut pas le transporter n'importe où. Après, sinon, d'un point de vue de l'édition, par contre, Futuro fait toujours du très, truc au top, quoi. C'est super joli, super esthétique.
Niveau du dessin. Moi, j'ai mis rare. Dans le sens où c'est très illustré, mais d'un point de vue de la bande dessinée, justement, c'est assez rare. Le dessin est beau.
Le dessin, je trouvais vraiment bien et vraiment beau. Ça m'a fait penser. Maintenant, je sais qu'ils en font peut-être un peu moins à la télé, mais avant, pour illustrer les procès à la télé, il y avait toujours les croquis, en fait, du gars qui est à la barre. Et j'ai trouvé que c'était vraiment dans cette atmosphère-là très réaliste, très documentaire, toujours. Enfin, moi, c'est le mot qui revient vraiment. C'est le mot documentaire sur cette truc-là, parce que
c'est du noir et blanc. Hein, je précise. Ouais. Il y a un travail sur le noir et blanc qui est très fort. Et puis t'as des portraits, des dessins. Moi, ce qui m'impressionne, c'est de voir tous les gens qu'on connaît maintenant, en fait, et de se rendre compte, putain, c'était des jeunes militants. Et puis militants à l'époque, ça voulait pas dire la même chose que maintenant, je pense.
Ouais, parce que quand tu tombes, je sais plus. C'est l'interview de qui? Il te raconte les bastons entre
les fachos et les rouges.
Enfin voilà,
il y avait des codes d'honneur. Ils n'avaient pas le droit d'utiliser de barre de fer, tu vois. C'était dans leur code d'honneur. Et quand tu utilisais des barres de fer, ça craignait, tu vois, c'était pas bien. Parce qu'ils avaient, c'était prévu qu'ils se battent, hein, qu'ils se tapent dessus.
Oui, parce qu'en fait, ils organisaient les bastons, quoi. C'est... Et là, du coup, c'est drôle parce qu'ils te disent, oui, mais il y avait, putain, c'est qui? Il y avait Madeleine.
Oui, oui,
il y avait Madeleine d'un côté. Et du coup, ils te sortent des noms et tu fais, mais, ah ouais, d'accord, lui, mais lui, on le connaît, quoi. Je lui sais qui c'est.
Lui, il allait fighter du. Et c'est assez impressionnant pour ça, quoi. C'est... voilà. Pour l'anecdote, on va le dire, Pierre Goldman est le demi-frère de Jean-Jacques Goldman, quelque chose en général dont il parle assez peu dans le bouquin. Ils en font une petite référence derrière.
Toute petite référence sur une interview de personnes qui sont allées demander l'autorisation aux parents de Pierre Goldman de pouvoir lui rendre visite en prison, parce qu'à l'époque, il fallait avoir l'autorisation
des parents. Il y a un petit truc rigolo, c'est de l'anecdote à ce niveau-là, sur ce que pensait Pierre Goldman de son frère, de son demi-frère, qu'avec ses cheveux longs, il était sans doute pédé. Et c'était pas bien.
Ouais.
Voilà. Ouais, c'était la belle époque, tu vois. C'est voilà. Je me demande si la chanson Ton autre chemin de Goldman ne parle pas un peu de son frangin. C'est une question que je me suis longuement posée. Faudrait voir. Mais c'est vrai que le lien est très très étroit parce que bah, Pierre Goldman a eu une vie très très variée, très riche. La façon dont il est tombé dans le hold-up, c'était vraiment. Un peu spécial, c'est en gros, il est revenu en France après avoir passé un moment au Venezuela pour rentrer dans les forces du Che, tu vois. Ouais, il était un peu à gauche, tu vois. Et...
Non, pas le Che, c'est la Bolivie.
Ah oui, ouais, je sais plus. Non, il voulait, il me semble.
Il est allé à Cuba, mais il n'est pas allé avec le Che.
D'accord. Et en gros, quand il est revenu, il était un
c'est
peu à la loose.
C'est ce que moi je te coupe juste, c'est ce qui est justement dans le truc à la fin. Parce que à la fin, on a une sorte de roman carrément qui est un article de je sais plus quelle personne.
Et Vladimir Rabi,
voilà, qui justement raconte.
Il y a deux articles complets
voilà, qui racontent justement donc les ben, un petit peu les arguments des journaux de l'époque qui ont un peu diabolisé Pierre Goldman. Et justement, il dit bien que voilà, il a dit oui, il est allé voir le Che et tout. Non, le Che. Parce que
là, c'était l'époque où t'avais le Figaro et Libé. Bizarrement, ils disaient des choses complètement qui n'avaient rien à voir. Et puis Libé, ils étaient très à gauche, beaucoup plus que maintenant en fait. Ils le sont toujours, mais ça se sentait plus. Ouais, l'article de Jacques Rémy, Comment fabriquer une cible, où il explique, en fait, il fait une analyse de tout ce qui est passé dans les journaux de droite et comment est-ce qu'ils ont en gros mis un gros cercle sur la gueule de Pierre Goldman en le traitant dans l'actualité. Voilà. On pourrait, je pense, remettre cet article Comment fabriquer une cible en parlant de comment est-ce que les médias indépendants.
On n'a dit jamais de ça ici.
C'est vrai.
Tu vas avoir des problèmes, toi. Tu vas avoir des problèmes.
Non, c'est fini, ça ne peut plus.
Ah, c'est fini.
Bon, ça va, alors vas-y, continue.
On continue avec de la politique, avec The Walking Dead numéro 15.
Et oui, parce que ce coup-ci, nous l'avons classé dans une case un petit peu nouvelle. Hein. On a dit que c'était un essai sociologique.
On a hésité à en parler il y a 15 jours dans notre rubrique Express, parce que bon, au bout d'un moment, on dit un peu beaucoup les mêmes choses. The Walking Dead numéro 15, et ben, en gros, il y a eu un siège, ils s'en sont sortis, et maintenant, ils essaient de remettre les choses en place. Je crois que j'ai déjà raconté résumé qui ressemblait à
non,
ça.
Mais, oui, parce qu'en fait, c'est ce qu'on a dit la dernière fois, c'est toujours la même alternance. Quoi. Cata, reconstruction. Cata, reconstruction.
Et là, on est dans l'épisode tranquille. D'ailleurs, c'est mon mot pour le scénario, c'est tranquille. Ils se reconstruisent, même si on voit que ça y est, ils commencent à vraiment encore faire un pas en avant dans la réorganisation de la société.
Disons que non, c'est surtout que maintenant, ils commencent à avoir une idée de ce qu'ils veulent faire.
Voilà. Et puis, avec ce qui s'est passé comme événement traumatisant qu'on ne va pas spoiler dans le tome précédent, on voit aussi que notre héros, Rick, se pose beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Mais déjà, maintenant, ils se sont dit, OK, faut qu'on arrête de faire les cons, faut qu'on se réorganise comme une vraie société, on va éviter de faire des raids à deux dans notre coin, on va faire des vrais raids à plein, on va vraiment organiser des défenses.
On arrête de faire des groupes de
1. Ouais. On va vraiment organiser des défenses, en pensant, en amont et à l'avenir. C'est le premier épisode, je pense, où ils en parlent du futur. Quand mon fils aura 18 ans.
Oui.
C'est là, tu vois, tu as le gars qui se dit, quand mon fils aura 18 ans, voilà ce que je veux que soit le monde. Et c'est la première fois que je pense dans un Walking Dead, il se projette autant en avant.
Alors, par contre, justement, tu vois, je te vois feuilleter et la double page centrale, il me semble bien que ça va être la première fois, il n'y a personne dedans.
Ah ouais, assis un cœur.
Ouais, mais non, il n'y a personne dedans. Tu vois ?
Oui.
Oui. C'est moi, c'est ça qui m'a.
Le personne de vivant ou de non vivant.
De non vivant. Voilà, il y a personne dedans. T'as pas un gros plan, c'est juste. Voilà,
non, c'est très joli. Le scénario, moi, j'ai mis tranquille. Toi, t'as mis.
Répétitif. Moi, j'ai mis plein de gribouilles parce que c'est répétitif. Et j'ai fait un...
Le dessin.
Toujours aussi excellent.
Kif kif bourrico.
Voilà, c'est. Mais c'est déjà ce que j'ai dit, je crois, sur le 14, et je crois même que c'est dit aussi sur le 13. Je sais pas combien ils vont en faire, mais il y a peut-être un moment où il va falloir qu'il y ait un clash, quoi. Il faut qu'il se passe quelque chose qui change par rapport à la routine, parce que comme je te dis, voilà, on est vraiment dans une routine. En contrepartie, j'ai toujours autant de plaisir à lire. Hein. Je veux dire, là, le Walking Dead 15, je te rappelle qu'on l'a lu à deux ou trois personnes dans une après-midi, quoi.
Oui, non, c'était rapide. Non, on a toujours autant de plaisir à lire, mais c'est vrai que on commence à se sentir un peu baladé.
Ouais.
Voilà. Là, on verra. On est en train de suivre les dernières routes vers le numéro 100. Je pense que dans le numéro 16 de Walking Dead, ça va monter jusqu'au 96. Donc, ce sera dans le numéro 17 qu'on aura le numéro 100 de Walking Dead, le fascicule numéro 100. Aux États-Unis, tous les 25 numéros, en général, il se passe un truc important qui fait avancer l'histoire, qui la renouvelle. J'espère qu'on va avoir le truc qui va faire ça. Maintenant, c'est vrai qu'en termes de feuilleton, il faut aussi voir ça. C'est un feuilleton. Son but, c'est de faire un truc qui ne s'arrête pas. En termes de feuilleton, c'est toujours réussi, toujours prenant. On a toujours envie de savoir ce qui va devenir à ces personnages.
Oui, ça, c'est sûr. C'est prenant, tu suis.
Mais je pense qu'on les a peut-être lus aussi trop rapprochés, en fin de compte. Les Walking Dead.
Quand tu prends l'apparition américaine, ils la lisent encore plus rapprochée que nous. Quoi.
Ouais, mais il y a un mois entre chaque tome, tu vois, c'est entre chaque 22 pages, quoi.
Oui, mais bon. Enfin, voilà. Non, mais
non, mais nous, je veux dire, on a lu Walking Dead, on a lu 7 ans de BD en un an.
Et justement, moi, je trouve que vous êtes encore mieux placé pour le coup pour critiquer les faiblesses du scénario, ou en tout cas la redondance de la structure et du scénario, le manque d'événements, parce que justement, vous lisez tout d'un coup.
Ouais, mais
si effectivement, il y avait assez d'informations, quand tu attends très longtemps pour lire la suite et que tu trouves qu'il n'y a pas assez de trucs, c'est pour ça que tu te sens frustré. Quand tu enchaînes les choses comme ça...
Non, mais c'est des faiblesses qui viennent du fait que nous, on ne le lit pas au format pour lequel ça a été écrit.
Oui.
C'est-à-dire que ça a été écrit pour être du feuilletonnant. Donc, on va se lire nos 22 planches et on se dit, putain, un mois pour avoir la suite, tu vois. Et je pense qu'il y a... Vu comme on a enchaîné les achats de certains tomes, le mois pour attendre la suite, on l'a rarement eu.
ça fonctionnait qu'à partir du tome 7.
Ouais. Donc franchement on a une accélération dans la lecture parce que bizarrement tous les gens à qui j'ai prêté The Walking Dead m'ont offert des tomes. Je pense que c'est une série j'ai dû acheter que là. Ouais, toi t'as pas accroché, Isaac n'a pas accroché à Walking Dead.
J'ai adoré le dessin, je le trouve vraiment.
Surtout même que t'as lu que le premier, en plus ça change de dessinateur après.
Non, j'en ai lu deux.
Ah.
Deux. Et vraiment, voilà, j'ai pas réussi à accrocher. Enfin, je suis pas très zombie dans l'absolu, même si j'aime beaucoup les codes et que ça me fait vraiment marrer. Sauf que bon, là, c'est pas l'objectif. J'avais du mal à rentrer dans le scénario. Mais par contre, voilà, la partie dessin est très très bien. Même si je ne les ai pas lus, j'ai feuilleté les autres au passage, parce que bien évidemment, ça tourne ces histoires. C'est le dessin est vraiment très joli.
Invincible, numéro 6. On reste. Oh tiens, le même scénariste. On l'a pas dit, c'était Kirkman et Adler tout à l'heure, et nous on est toujours sur du Kirkman avec Invincible.
Avec Ryan Otley ce coup-ci.
Oui.
Donc le tome 6, Ménage à 3, toujours chez Delcourt.
C'était ça l'introduction, le triolisme et tout, c'était par rapport à ce tome-là. Voilà. Donc vas-y, continue.
Dans le doute, je vais faire le mec, hein, parce que les deux autres pour le triolisme, c'est deux nanas. Donc dans le doute, je vais faire le mec.
Donc voilà, je suis au regret de vous annoncer que je quitte l'émission, je m'en vais. Voilà, au revoir.
Mais non, tu as le choix. Tu peux être rousse avec un magnifique habit très saillant et rose, ou être blonde et avoir un copain super-héros. C'est toi qui vois.
C'est Atom Eve.
Bon, si tu nous racontais, si tu nous résumais ce qui se passe dans ce tome.
Nous sommes donc toujours en train de suivre les aventures d'Invincible, alias Mark Grayson, qui donc a sa copine, Amber. Ça, c'est sa copine non magique. Et il a sa copine magique qui est
super-héros, voilà.
Super-héroïne qui
est. Parce que Marc est un super-héros, vite fait, on explique, jeune adolescent, oui. Etc. Voilà, c'est bon, c'est voilà.
Et donc, épisode, Marc revient de son voyage intergalactique avec un enfant.
Oui, son demi-frère.
Son demi-frère, donc, qui est donc le fils donc, de son père et d'une entité insectoïde qu'ils ont rencontrée sur une autre planète. Voilà.
Mais elle était très gentille.
Très bizarre,
Et elle était extrêmement gentille, cette maman insecte. Ah oui. Magnifique.
Voilà. Dommage qu'elle ne vivait pas très longtemps.
C'est ça, ils ont une vie très courte, les insectes, c'est le souci toujours.
C'est génial, ça, on peut changer de femme assez régulièrement et de manière totalement légale.
Ok, donc Isaac va commencer à devenir insectophile.
Ouais, sérieux, non, je trouve que là on part mal là, dans l'émission. Donc on en était à Grayson, donc, qui est revenu avec son demi-frère. Il revoit Eve, donc, sauf que là il reçoit une petite invitation de. Non, il revoit Amber, mais il reçoit une invitation de Eve à aller le voir en Australie parce qu'elle est partie réfléchir sur le sens de la vie. Donc il part avec sa copine voir une meuf qui est folle de lui. Donc on se retrouve dans une sorte de, comment on dit,
c'est marrant comme triangle amoureux pour du super-héros. Le triangle amoureux super-héroïque, la plupart du temps, c'est la fille qui est amoureuse de l'entité super-héroïque, mais qui est tout le temps, enfin la Superman quoi, hein. Ça, oui. Ça c'est le classique.
C'est le classique.
Là, il a vraiment fait quelque chose de totalement différent.
Ouais.
Assez mais original, bon. Je crois pas l'avoir vu ailleurs en fait.
Ça fait, c'est un épisode intéressant parce qu'il va rajouter de l'épaisseur au personnage maintenant. C'est moins bourrin que les épisodes précédents où il y avait du sang partout, où oui, c'était gore à souhait.
Et puis il fait mûrir son personnage.
Mais ça fait un peu à l'eau de rose, quoi.
Sur la première petite histoire, ouais. Sauf que quand tu arrives sur la suite avec Angstrom Levy.
Ah, le petit Marc grandit bien et se devient un homme, entre guillemets. Il a des pulsions, des vraies pulsions, un petit peu comme son papa, qui avait une fâcheuse tendance à être un petit peu violent à la base. Lui-même, du coup, après une rencontre un petit peu compliquée avec son papa, on va dire, il a coupé le cordon de manière assez brutale, est un petit peu désarçonné par son comportement face à ce super vilain qui a le pouvoir de transporter d'univers parallèle en univers parallèle.
Oui, et qui, en gros, prend surtout sa mère en otage.
En otage, absolument. La mère qui, du coup, puisqu'il a ramené son demi-frère, et la maman joue le rôle de la mère, justement. C'est pas Marc qui se coltine son demi-frère à élever.
Et la mère qui, pour le coup, waouh, déjà qu'elle était en train de commencer à sortir de sa dépression tout juste, là, à peine.
Morfle un petit peu, oui, clairement. Un petit erratum, Atom Eve n'est pas en Australie, mais en Afrique. Donc je fais les ratons tout de suite dans le numéro, on n'attendra pas le numéro suivant.
D'accord.
Mais donc effectivement cette relation à trois est intéressante. C'est justement, je trouve, que ce qui différencie Invincible d'autres super-héros, c'est que on est dans une relation adolescente avec les questionnements de l'adolescent en tant que super-héros. Donc il a ses problématiques de super-héros, de relationnel avec l'entité administrative supérieure qui lui donne des missions. Mais il a aussi le problème de la relation à son père, le problème du relationnel à sa mère, le problème de relationnel avec sa petite amie, quand est-ce que je la vois, quand est-ce que je la vois pas. Le numéro d'ailleurs à la fin fait un petit interlude sur le moment, donc c'est un flashback, sur le moment où il raconte à sa petite amie, Amber, qu'il a des pouvoirs de super-héros. Etc., etc., ce qui lui est arrivé avec son père, le combat où son père lui a bien démonté la figure, l'explication du demi-frère, etc. Bref, on est vraiment dans des problématiques très personnelles sur ce super-héros et des problématiques donc d'adolescent avec mes premières amours. J'aime Amber, mais en même temps, Atom Eve, c'est ma copine, c'est mon ami.
Ça reste
voilà.
Adolescent, mais c'est pas traité, bébé, entre guillemets.
Ah non, pas du tout.
C'est très, très crédible.
Ah oui, on est sur des problématiques d'adolescence, c'est pas d'adolescent, pour autant
mais d'adolescent de maintenant, tu vois.
C'est ça.
Au niveau du scénario, moi j'ai mis que c'était interdimensionnel, dans le sens où en fait on touche vraiment à tout. Il y a des petits bouts d'intrigue dans tous les sens qui sont disséminés à gauche à droite, entre l'extraterrestre qui est arrivé sur Terre, on sait pas encore à quoi il va servir, mais il est là. Il y a quelques pages qui nous le montrent, les relations avec sa copine, le grand méchant qui séquestre sa mère, donc là on est dans l'aventure proche. Il va rediscuter avec le costumier, il fait une découverte très très terrible à la fin, mais on va pas la donner. Enfin, pour moi, ça part dans tous les sens. Oui.
Juste sur le passage entre les dimensions, c'est vachement sympa parce qu'il y a plein de petits clins d'œil.
Oui.
On croise le docteur Octopus, on croise. Attends, qui ça d'autre encore ?
Oui, il arrive dans d'autres BD la plupart du temps.
Ouais, t'as Octopus, t'as Walking Dead aussi. Enfin, voilà, t'as plein de petits clins d'œil dans les différentes dimensions qu'il va croiser dans l'épisode.
C'est assez drôle. Ton mot, tiens, Thio, t'avais le micro pour le.
Le quoi, le scénario ?
Pour le scénario, ouais.
C'était background à l'eau de rose.
D'accord, c'est ce qui t'a marqué vraiment dans l'épisode. Quoi. Alors ouais. Que pourtant, c'est que le début. Hein.
Ben ouais, non, attends.
Et c'est pas que le début, parce que c'est quand même un petit peu le running gag, quoi. Oui. T'as le début, t'as la fin, enfin t'as le milieu, t'as la fin. C'est tout le long, c'est quand même, on raconte toujours la même chose. Hein. D'ailleurs, Eve a pas très bien vieilli, je trouve.
Ah, elle a un peu morflé, hein. Mais en même temps, t'es un super héros, ça t'empêche pas de vieillir. Hein. Moi, pour le scénar, j'ai mis origine et avenir, parce qu'on est vraiment sur ces deux pôles, je trouve, dans ce numéro, où on parle des, encore une fois, sur le personnage de Marc, et pas simplement sur l'aventure en elle-même, même si, bon, il y a un gros morceau qui est sur Angstrom Levy, donc c'est une tranche d'action dans l'épopée d'Invincible. Mais voilà, on est sur la construction de ce personnage, ses origines et son avenir, avec justement un petit moment de flash forward, où il rencontre Atomev du futur qui du coup donne encore une fois de l'épaisseur au scénario futur, une bonne préparation, enfin clairement moi je me languis le numéro 7, 8, 9 derrière pour voir un petit peu ce que ça va donner.
Le dessin, j'ai mis stylé parce que c'est stylé, je veux dire quoi, là, c'est clair, c'est net, c'est stylé, j'aime bien le dessin. C'est dynamique, c'est péchu, c'est propre, c'est coloré, ça marche super bien.
Bah justement, moi c'est ce que j'ai marqué. J'ai marqué coloré et en même temps épuré. On n'a pas 50 milliards d'ombrages et compagnie dans tous les sens.
Ouais, d'un autre côté, il fait 22 planches par mois, il n'y a pas non plus que c'est le cul à faire des ombrages et puis des décors. Tu vois, c'est classique. Hein, on a pas... Les décors sont plutôt pas trop mal, il y en a quelques-uns.
Oui, mais... oui, mais c'est pour ça, c'est quand même fouillé. On n'est pas, pas dans du l'épuré vide, mais il n'y a pas d'ombrage. Par contre, oui, il y a beaucoup de remplissage de décors et tout ça, hein, mais voilà, on n'est pas sur... le travail de l'ombre, du machin, du contour et du truc mûche.
Tio.
Moi, j'ai mis que ça en jetait. Ça jette.
Ça jette. Voilà, ouais, c'est vrai. On est en plus bien servi par l'édition de chez Delcourt, qui nous met plein de bonus à la fin, avec des croquis préparatoires, avec un petit peu des remarques, des commentaires sur les couvertures.
Plus que d'habitude.
Ouais. Non, franchement, c'est une belle édition. Moi, j'aime beaucoup cette série. J'espère qu'elle va continuer à cartonner et que... bon. Si cette série continue à être publiée en France, c'est grâce à Walking Dead.
Oui, parce que Kirkman, comme il va en France, on s'est dit, tiens, on va prendre...
Elle a failli, disons qu'il y a eu, entre le tome 4 et 5, je crois, il y a eu une pause très très longue. Parce qu'ils n'étaient pas sûrs que ça marchait pas assez bien.
Donnez-nous la suite !
Chin, les bambous de la sagesse.
Aux éditions Bambou.
Oh, comme c'est mignon. Par... Donne-moi ce livre que je puisse lire le nom des auteurs qui est compliqué. Verwisch et Eskeish. Je ne sais pas comment
on prononce. Comment
Verwisch et Eskeish. Je ne sais pas comment on prononce. Auteur, si vous nous écoutez, pardonnez-nous. Vous n'avez qu'à venir à notre émission pour faire une correction au niveau de notre prononciation déplorable. Chin nous raconte l'histoire
de... Le prix français de 13,90 au fait.
Voilà.
Et chaque tome est une histoire complète. Il y a déjà deux tomes qui sont prévus.
C'est une réédition. C'est ça.
Ah, tu savais pas,
c'est une réédition de cette série qui est sortie en même temps que Ling Ling, du même scénariste, qui nous raconte la vie de deux étudiants en arts martiaux qui en fait sont emmerdés parce que vu qu'il y a l'empereur qui a décidé que les écoles d'arts martiaux vont toutes les fermer.
Bah, tout ce qui était éducation en fait.
Voilà, parce que en fait comme ça permettrait d'éviter qu'il y ait des gens qui un jour soient assez forts pour lui latter la gueule. Et donc, il a aussi fermé les écoles. Comme ça éviterait qu'il y ait un jour des gens qui soient assez intelligents pour le renverser.
L'empereur être de Chine. Roi d'un troupeau de moutons, quoi.
Ouais, c'est l'empereur de Chine.
Et... Ça me rappelle quelque chose. Non, allez.
Et eux, ils s'emmerdent.
Toi, tu vas avoir des problèmes, toi.
Et eux, donc, bah, ils s'emmerdent. Hein. Ils cherchent quoi faire. Ils se disent, hey, si on rencontrait d'autres gens qui font des arts martiaux pour se latter sur la gueule et pour évoluer.
Ils veulent prendre des pecs.
Voilà. Et en fait, ils rencontrent deux moines qui se baladent avec des bambous.
Deux lettrés.
Diablo 3.
C'est deux lettrés, au fait.
Ouais,
c'est,
deux lettrés,
pas, c'est pas des...
Ouais, non, les tricks se baladent avec des bambous qu'ils ont volés à la bibliothèque. Que le...
Oui, parce qu'à l'époque, en fait, il n'y avait pas de papier. On écrivait, en fait, sur les bambous.
Les livres, voilà. Bah, en fait, et donc, ils décident d'accepter d'essayer de les cacher pour les protéger. Et s'en suivent une série de mésaventures, de rencontres avec les gens qui essaient de les choper pour leur latter la tête parce que... ils sont hors la loi, quand même.
Ouais, et les deux fighters, en fait, c'est Sagesse Éternelle et c'est Muscles Flamboyants.
Voilà, c'est leur nom.
Ça doit être un petit peu dur à porter dans un bureau quand même. Hein.
Et il rencontre même un sage qui s'appelle là-haut sur la montagne. Voilà. Il y a quelques trouvailles sur les noms qui sont
ouais. Sympas. Non, c'est...
Voilà. Voilà pour l'histoire. On est dans la veine de Ling Ling, mais alors franchement, au niveau scénario, moi j'ai trouvé que c'était un peu plus plat. Il y a moins de rythme C'est-à-dire que on suit leurs mésaventures. Déjà, tout le début, on a des héros qui sont trop sûrs d'eux, trop forts, trop balèzes. Et ça manque de challenge, quoi. Moi, j'ai pas eu l'impression qu'il y avait de... J'ai pas eu l'impression qu'en fait, il y avait d'enjeux difficiles. Je me suis dit, oui, bah, vu comme c'est parti, ils vont finir l'histoire trop facilement. C'est ce que ça m'a donné. Ça m'a un peu bloqué là-dessus, en fait. Je trouvais que c'était un peu moins bien construit qu'un Ling Ling. C'est peut-être aussi parce que ça a quelques années avant. Quoi. Ça date de quelques années avant.
Ah, bah, enfin, ouais.
Toi, je sais que t'as adoré, donc vas-y, défends ton steak.
Alors moi, je me suis régalé. D'accord avec toi, tu suis leur histoire. Mais c'est plein de petits rebondissements. Il se passe toujours quelque chose. Au niveau des dialogues, c'est super bien écrit. En plus, avec toutes les citations, les petits proverbes chinois qui te ressortent à quasiment toutes les pages, je dirais, au bout d'un moment, c'est... Enfin, moi, j'ai trouvé ça très drôle.
Oui, et puis des clins d'œil avec des citations pas forcément chinoises.
Pas forcément chinoises aussi, pour certaines. Voilà, c'est excellent. Excellent.
Ouais, donc toi, t'es vraiment tombé à
fond. C'était moi, j'ai passé un super bon moment. En plus, je trouve que le scénario, surtout avec l'idée de la fin, pour justement que les citations ne meurent pas, c'est...
Oui, non, la fin est bien amenée. Oui, j'ai dit que c'était de l'aventure historique, hein, pour le genre, on a oublié de le dire.
Oui, mmh. Oui.
C'est, voilà.
Avec quand même, je trouve, des décors qui sont simplistes sur le dessin, parce que je passe de suite au dessin. Les décors sont peut-être un peu simplistes, mais qui sont, je trouve, très jolis, très bien faits.
Moi, c'est ce qui m'a le plus marqué sur le dessin. J'ai beaucoup aimé les paysages, les décors, la façon dont il y avait. Et j'ai été un petit peu plus circonspect sur le reste du dessin, que je trouve un peu trop simple, en fait. Ça manque de la dynamique qu'il y avait sur... Je me sens obligé de le comparer à Ling Ling, hein, peut-être parce que c'est la même ambiance, le même scénario. Ça manque de cette patate qu'il y avait dans le dessin. C'est un peu plus mou, quoi. Moi, j'ai pas été emporté. Alors, il y a quelques trouvailles dans certaines scènes d'action qui sont assez jolies, mais j'ai trouvé que les élans de grâce étaient assez rares, en fait.
Ouais, je trouve rude. Je trouve rude parce que je trouve que voilà, il y a des moments qui sont très dynamiques, d'autres qui sont un peu plus contemplatifs, mais dans tous les cas, c'est plus de la BD d'humour, quoi. Tu suis l'aventure des deux copains. C'est un Joanne et Pierre-Louis, quoi.
Ouais, il y a un peu de ça, ouais, effectivement. Isaac, toi qui viens de feuilleter rapidement, que penses-tu, toi, du dessin ? Est-ce que tu as un mot à dire ? Alors, plus du côté de qui au niveau de la critique ?
Ce serait un petit peu un mélange de tout ça.
Trop facile.
C'est-à-dire que je suis d'accord avec toi, Pierrick, pour dire que le dessin des personnages est très enfantin. Alors bon, du coup, ça peut créer une forme de cible aussi pour la...
Oui,
pour
c'est la BD jeunesse. Hein, oui, non, c'est la BD jeunesse.
La BD jeunesse. Mais à côté de ça, pour revenir sur ce que disait Mathieu, effectivement, il y a pas mal de planches où les décors sont extrêmement bien faits et vraiment bien stylés. Des bonnes trouvailles, comme tu disais, pour les combats, pour donner beaucoup de mouvements. Puis des jolies perspectives, des jolis angles de vue. Il y a vraiment de jolies trouvailles. Mais ça donne un peu l'impression que d'une planche à l'autre, c'est très inégal, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des planches qui sont extrêmement fournies et où il y a dû avoir énormément de temps de passé pour arriver à fournir un résultat comme celui-là. Et puis alors d'autres planches qui sont très vides et qui pourraient... du Joanne et Pierre-Louis encore plus vides, encore plus épurés. On a mis un coup de bleu pour le ciel, un coup de vert pour mettre trois arbres et hop, ça y est, c'est fini. On aurait peut-être pu rajouter trois petites bricoles, un petit caillou par-ci, un écureuil par-là, enfin j'en sais rien, faire un truc, quoi.
Ouais, mais là je te prends le micro parce que c'est... Non, oui, mais il y a des passages où c'est forcément, c'est juste pour faire de la juste pour faire du lien, quoi.
Oui, après l'usage des décors super détaillés, je dirais avec Mathieu, c'est pas forcément nécessaire de mettre des décors super détaillés dans tous les dessins.
Voilà, parce qu'il y a des moments où.
Parfois c'est mieux qu'il n'y en ait pas pour mettre en avant plus les personnages.
Parce que voilà, ce sont les personnages qui sont devant, donc du coup, non, tu reprendras pas le micro. D'autres, ça on le partage déjà, tu me laisses parler, ouais. Non, mais oh. Donc du coup, c'est parce que là, on veut le mettre devant et tu mets les personnages en avant sur la case. Et donc du coup.
On m'empêche de m'exprimer !
Et donc du coup, c'est pour ça qu'il y a des moments où tu vas avoir des beaux décors bien représentés, parce que ce sont des passages d'arche un peu contemplatifs. Je reviens à mon terme tout à l'heure. Allez, vas-y, fais-toi plaisir, je te le rends.
Je reviens sur la planche que je te montrais. Il y a en tout et pour tout 4 bulles et demie, on va dire ça comme ça, d'un personnage qui fait deux mouvements...
C'est parce qu'il fait du tai chi chuan.
Il fait du tai chi, oh, c'est...
C'est normal.
Il te le dit, il te l'explique, il te dit, regarde, je m'appelle Bois Delon et je suis l'inventeur de cet art martial pacifique, excellent pour la santé. Voilà, il fait du tai chi.
Voilà. C'est bien ce que je dis, il n'y a pas besoin d'en faire une planche complète aussi vide, quoi.
Non, c'est, non
ça là, reste mon avis, là, c'est ton avis, non,
je pense que parce que tu l'as pas
c'est
lu.
C'est parce qu'il fait monter le suspense.
Ça allait avec le scénario.
Parce qu'eux, ils se disent, oh, attends, on va se faire un fight de la mort. Oh, attends, il nous fait des trucs qu'on connaît pas, tu sais.
Non, mais c'est là, pour le et coup, puis, ça allait avec le scénario.
Il se passe toujours rien.
Voilà. Bon, je crois que,
franchement, achetez-le, parce que c'est sympa. Voilà.
Si vous voulez apprendre à faire des trucs avec des baguettes contre des épées aussi, ça peut être vachement utile.
Ouais.
Mais déjà dans Karate Kid, on avait appris à traiter pas les mouches avec.
C'est ça.
Blotch!
Bitch! Julien Parra est un auteur que nous avons rencontré au Festival des Calanques et des Bulles. Il était bien ce festival.
Moi, je dirais rencontré et je dirais même découvert pour moi.
Découvert. Dans notre émission des Calanques et des Bulles, Thio avait dit que j'ai craqué là-dessus, on va voir ce que ça va donner, sans trop... voilà. Pour le coup, on s'est procuré l'autre livre de Julien Parra. Donc, nous avons Trois Instincts et Chambre à deux. Ces deux ouvrages qui sont sortis chez Emmanuel Proust. Dans la collection Atmosphère, collection plutôt pas mal parce qu'elle accueille d'assez bonnes bandes dessinées assez classe, genre du Kent Williams, tu vois, le truc, ça va. Donc, jeune auteur qui vient de la région toulonnaise, la Seine-sur-Mer, qui a un atelier de BD là-bas où il donne des cours de bande dessinée. Et normalement, on pourrait faire un sketch ou un truc comme ça, mais en fait, ce qu'on n'a pas dit à Isaac la dernière fois, c'est que quand il a une interview, en fait, on ne le fait pas. C'était juste pour le faire chier qu'on l'a fait faire. Et donc, nous allons écouter tout de suite cette interview de Julien Parra qui a été menée par Thio sur le Festival des Calanques et des Bulles.
Bonjour, on est toujours donc dans le Festival des Calanques et des Bulles. Nous interviewons donc Julien Parra. Bonjour Julien.
Bonjour.
Alors j'avoue que ça a été un peu le coup de cœur pour moi dans ce festival. Je ne connaissais pas Julien Parra avant, je ne connaissais pas votre travail, mais voilà, j'ai trouvé ça assez dynamique, graphiquement très intéressant et péchu, donc je me suis dit voilà, hop, faisons une petite interview. Donc est-ce que vous pourriez vous présenter un petit peu?
Alors Julien Parra, 30 ans, dessinateur aux éditions Emmanuel Proust. Donc l'album que tu as vu, c'est Trois Instincts, mon premier album qui est sorti en 2010. Et là, en janvier dernier, est sorti Chambre à deux. Donc deux albums, deux one-shot.
Et a priori, il y aura donc ton actualité. Ça va être quoi maintenant? Tu as une suite sur ces albums-là? Enfin, une suite dans ce monde-là ou d'autres projets?
Alors, en ce moment, j'ai un petit peu mis la BD de côté. Alors, en plus d'être dessinateur de BD, je donne aussi des cours de bande dessinée dans mon atelier à Sifour-les-Plages, l'atelier parallèle. Donc, une activité qui me prend pas mal de temps. Mais là, j'ai mis la BD de côté pour me consacrer à un jeu vidéo pour smartphone, un jeu d'aventure sur le thème du poker. Un jeu auquel j'ai joué et pas mal gagné à un moment. D'ailleurs, je me suis demandé si si j'allais faire du poker ou de la BD, hein, même à un moment. Et j'ai choisi la BD. Hein. Mais donc là, j'ai retrouvé un petit peu le goût du poker et puis j'avais écrit un petit scénario. Et pas forcément envie de le faire en BD. Et un ami programmeur m'a proposé de faire un jeu indépendant. Et puis là, j'ai ressorti le scénario, adapté en jeu. Et ça va être quelque chose de beaucoup plus ludique, finalement, que si ça avait été uniquement de la BD. Donc ça, c'est l'actualité là, toute chaude, là, qui va me prendre pour les 5 prochains mois. Et après, probablement, re-signer un nouvel album, sûrement aux éditions Emmanuel Proust. Voilà.
Est-ce que tu aurais ta dernière découverte en BD ou ton dernier coup de cœur en bande dessinée?
Alors, mon dernier coup de cœur... j'ai découvert il y en a eu plusieurs. Le dernier que j'ai découvert, ça a été... c'est Ushijima, en fait. C'est un manga. Je sais pas si tu connais. Non. Alors, c'est un manga. Il y a déjà 17 tomes sortis en France, chez Kana. J'ai découvert ça récemment et c'est l'histoire d'un yamikin. Ce sont des prêteurs sur gage japonais quand les gens n'ont plus accès au crédit officiel par les organismes de crédit ou les banques. Ils vont voir donc ces prêteurs sur gage qui prêtent à des taux absolument hallucinants et qui sont sans foi ni loi, et c'est d'une violence et c'est sans morale. Et c'est un manga qui m'a choqué. D'ailleurs, le premier tome, j'ai mis 4 jours à m'en remettre. Moi, j'étais choqué. Et j'ai quand même eu vraiment envie de lire la suite parce que pour qu'une BD me mette dans un état comme ça. Et ça a été vraiment le dernier coup de... Je ne sais pas si c'était un coup de cœur, mais c'était le dernier coup de sang en BD que j'ai lu.
Au niveau de ta technique de travail, comment tu fonctionnes ? Tu travailles beaucoup à l'ordinateur ou tu es plus traditionnel en crayonné et ensuite en ancrage ?
Alors, déjà les techniques, 2-3 instincts à chambre à deux ont un petit peu évolué. Ce que je fais, c'est du dessin sur une planche, un papier à froid grammage. Donc je fais le crayonné et l'ancrage sur ce papier-là. Ensuite, je le scanne. Très important, je ne mets pas les bulles dessus. Les bulles, je les mets uniquement sur un brouillon. Le texte, il n'est pas définitif parce que je ne sais pas encore. Je suis jamais sûr de ce que je vais, de comment je vais dire les choses. C'est vraiment l'étape pour moi la pire étape parce que j'ai très peur d'écrire. Quand je me dis c'est ce que les gens vont lire, ça me tétanise. Donc je la fais vraiment à la fin. Et donc je fais ma planche sans les bulles. Je la scanne. Si je retouche il m'arrive de retoucher le dessin donc à l'ordinateur. Sauf que j'ai fait beaucoup plus du coup sur chambre à dos. J'ai acquis pas mal de dextérité en fait au maniement de la tablette graphique et donc du coup j'ai fait pas mal de retouches sur cet album là plus que sur 3 instincts. Et donc je redessine un petit peu les dessins qui sont qui me plaisent pas, des visages mal faits, et surtout avec l'ordinateur on peut aller là où le crayon ne peut pas aller, donc on peut zoomer vraiment très profondément et redessiner. Et après une fois que j'ai bien redessiné, je mets en couleur, donc des aplats uniques, sans ombre, juste quelques ombres portées sur le sol, d'une part pour aller plus vite et d'autre part parce que je trouve que ça met en valeur les dessins de la ligne nucléaire, cette technique-là. Enfin, je fais de la BD que j'aimerais lire, que j'aime lire, et pour moi c'est ce qui me plaît le plus. Mais peut-être que sur mon prochain album, je vais peut-être commencer à mettre un petit peu des ombres sur les personnages, je me tâte un peu, je commence un petit peu à vouloir changer. Mais bref, et donc dès que j'ai fini de mettre la couleur, à ce moment-là, je mets les bulles par ordinateur, je mets le texte et je calibre les bulles pour le texte, quoi. Et après voilà, le planche est fini.
On va commencer par parler de 3 instincts, donc le premier ouvrage qu'a sorti Julien Parra, qui est un thriller.
Un thriller.
Un quoi ? Un thriller.
Un quoi ?
Un thriller.
Ah, un thriller.
Super violent, on va le dire. Hein. C'est dérangeant. Alors, je balance tout de suite le mot. C'est un thriller violent, c'est le genre. Et pour moi, le scénario, il est dérangeant.
Moi, j'avais mis haletant.
Haletant. Moi, ça m'a... je veux dire, ça m'a malmené. Le scénario est bien mené, mais moi, ça m'a malmené.
Non, c'est de l'ultra-violence, je dirais. C'est... Alors, derrière, dans le quatrième de couve, ils parlent justement, ils disent oui, une petite référence à... Orange Mécanique, je suis assez d'accord en fait. Orange Mécanique m'avait choqué quand j'étais tout petit parce que j'avais trouvé ça très violent.
Et toi, t'as laissé regarder Orange Mécanique tout petit.
Ouais, ça explique ceci explique cela.
Ça explique beaucoup de choses.
Et du coup, je trouvais ça hyper violent. Et bon, en le regardant ensuite, je trouvais ça un petit peu le monde des bisounours quand même. Et là, en lisant ça, j'étais un peu oui, ça fait le même ressenti.
Mais ce n'est pas gratuit. Ça peut Exactement. Paraître gratuit. En fait, on va suivre. C'est chapitré en 3 histoires qui nous font suivre 3 personnages qui globalement semblent n'avoir rien à voir, et on a un épilogue qui nous fait la liaison et qui nous montre que ce n'était pas gratuit et que en fait ça nous montre comment ces personnages ont évolué et en quoi leur instinct a changé en
c'est
fait.
Ça le scénario est parfaitement écrit,
c'est très très bien mené,
c'est excellent.
Par contre, on souffre hein, la lecture. Moi, j'ai des moments, j'étais là, je me disais, mais pourquoi je lis ça ? Mais pourquoi je lis ça, quoi ? C'est pas possible.
Ouais, mais c'est très prenant, en fait. C'est à la fois c'est un plaisir pervers de une curiosité morbide.
Ouais. Le dessin. C'est efficace.
Efficace. Ouais, il y a pas. Je pense qu'il y a justement, il y a pas de. Il y en a pas en plus dans le dessin, quoi.
Alors, il y a une inspiration au niveau du trait très asiatique. Même si on voit qu'il n'y a pas que ça, c'est-à-dire que ça reste assez européen dans la narration, dans la façon de montrer les choses, mais c'est vrai qu'il y a une inspiration dans les visages principalement qui est assez asiatique, un peu dans le découpage et dans la mise en scène, on retrouvera plus dans Chambre 2, justement, le côté asiatique. On verra après. C'est lui qui fait tout. Scénario, dessin, couleurs. Au niveau des couleurs, j'en avais un peu parlé avec lui. Parfois, c'est un peu trop plat. C'est-à-dire qu'il va vraiment utiliser des aplats très francs avec très très peu de valeur d'ombre, de
bah, justement, lumière, etc. Il en parlait dans l'interview parce que c'est justement ce vers quoi il voudrait tendre, c'est qu'il voudrait maintenant améliorer son dessin en faisant plus d'ombre, plus de nuances, on va dire, dans sa couleur.
Dans sa couleur. Et ça se voit parce que certaines scènes où justement, sur les scènes de tension, il utilise un peu plus d'aplats, hein, plus de... Et ça, waouh, là, le dessin, il en jette, quoi. Putain, les scènes gore que t'as à certains moments, tu fais, mais pourquoi je dis ça, quoi? Mais pourquoi je dis ça? Donc, lisez-le si vous vous demandez pourquoi. Après, vous vous poserez la question aussi.
Mais au niveau du scénario, voilà, c'est vraiment excellent. On peut pas trop spoiler parce que Isaac l'a pas lu.
Et puis vous non plus, peut-être.
Donc voilà, effectivement, je les enquiquine un peu pour éviter de spoiler. Donc j'ai pas encore lu et ça me tente énormément. Au premier coup d'œil, en fait, le travail sur la couleur, moi, au contraire, je le trouve vraiment... effectivement, il y a peut-être pas beaucoup d'ombre, etc. Mais il y a un choix de code couleur. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Ça me fait penser un peu à du Kill Bill.
Non, mais
aussi bien
couleurs,
au niveau...
vite fait, les codes couleurs sont très bien. Maintenant, c'est le manque de relief dans ces couleurs. Moi, c'est ça qui me.
Oui, oui.
Je trouve un peu dommage.
Mais
c'est du détail. Hein,
oui. Mais il y a quand même une réflexion voilà, sur la couleur avec les parties qui sont séparées, avec une tonalité qui est donnée. C'est un truc qui me plaît pas mal et qu'on retrouve un petit peu dans Kill Bill de Tarantino, dans la scène justement de combat asiatique qui est traitée façon manga. Et on a un petit peu les mêmes traits, la même dynamique et le même choix de couleurs pour donner l'ambiance générale. C'est moi je trouve, au premier coup d'œil en tout cas, ça m'inspire énormément, ça me donne très très envie de le lire.
Par contre, comme disait Maledictio l'autre jour, c'est la BD, il faut la lire d'un coup. Si oui. On laisse trop de temps entre chaque chapitre, après quand on arrive sur l'épilogue qui fait le lien, on est un peu largué. Moi je l'ai lu quasiment d'un coup, je l'ai lu en deux fois, donc mais assez rapproché, mais effectivement bon, moi j'ai trouvé cette bande dessinée vraiment très très bien. Chambre à deux. Donc, là, on est plus dans un huis clos romantique. En gros, il y a un accident dans un hôpital et on est obligé de mettre deux mômes qui attendent une opération dans la même chambre, un garçon et une fille, alors que normalement, les chambres ne sont pas mixtes. C'est interdit.
Ouais. Avec un quand même joli jeu de mots, je trouve, sur le titre.
Chambre à deux, voilà. D'ailleurs, nous avons remarqué que la première BD de Julien Parra s'appelait Trois Instincts, la deuxième Chambre à deux. Y aura-t-il le chiffre 1 dans sa prochaine BD? Peut-être fait-il un compte à rebours. C'est un complot, peut-être.
Avant d'exploser.
Donc, on va suivre la vie de cette adolescente très, très basique. Je dirais, entre guillemets, un peu Kaira, très légèrement. Hein.
Très légèrement.
Voilà. Et le jeune un peu timide, un peu coincé, qui se retrouve avec elle dans la chambre et qui n'ose pas parler, parce que c'est vraiment le jeune très, très timide. Et on les retrouve à voir comment ils se rencontrent, comment ils discutent, comment ça se passe, etc. La façon dont c'est construit, c'est aussi raconté par chapitre, et avec des interludes d'une page qui nous montrent des personnages qui font des actions et on ne sait pas trop qui ils sont. Alors si, parfois on le sait, ça va être le père de l'héroïne, Mélina, ça va être un personnage qu'on a déjà croisé, etc. Ou des gens qu'on n'a jamais vus encore et on ne sait pas pourquoi est-ce qu'on l'auteur décide de nous les montrer. Et bien sûr, au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, leur rôle va avoir de l'importance. Il y a une particularité qui est très intéressante aussi, c'est que il y a beaucoup de passages en arabe qui ne sont pas du tout traduits. Quelques passages en arabe pas du tout traduits, donc on ne sait pas du tout ce qu'ils racontent. Les traductions sont disponibles sur le site de l'éditeur. C'est parce qu'en gros, Julien Parra a voulu garder l'ambiance, garder un ton, une ambiance. Donc on ne sait pas ce qu'il se dit exactement et on imagine. Et en fait, on a plein de pistes, on imagine plein de trucs, plus ou moins tordus, et il nous bluffe un petit peu quand même sur le final.
Ouais.
J'ai mis un constant quand même au niveau du scénario parce que moi c'est la chute qui m'a énormément déçu. Je l'ai trouvé bateau, un petit peu trop facile. Elle a quelque chose d'assez réaliste, elle nous démontre quelque chose sur l'inconstance de la jeunesse, mais j'ai trouvé que c'était un petit peu facile comme final.
Ouais, mais disons que tu peux peut-être pas avoir les mêmes. Enfin, est-ce que tu as pas fait trop de liens par rapport à trois instincts, quoi? Ou tu attendais justement à une fin qui te waouh?
Non, c'est pas. J'attendais pas une fin qui me waouh, mais là, tu vois, c'était un peu l'image qu'il utilise, le truc comme ça. C'est suffit d'avoir suivi quelques comédies romantiques médicales pour l'avoir vu plusieurs fois ce genre de truc. C'est, voilà, j'ai trouvé que c'était un petit peu facile, qu'on était un peu dans le cliché en fait. Et c'est ce qui m'a un peu déçu. Alors que tout du long, on imagine plein de pistes compliquées, des trucs tordus, etc. Et on arrive, on finit sur du cliché. J'ai trouvé ça un peu dommage parce qu'il nous laisse imaginer des choses plus ou moins terribles, plus ou moins géniales, etc. Et il finit sur un truc un peu bateau.
Ouais. Ouais. Non, je suis d'accord que c'est ben le scénario est moins.
On n'est pas dans du thriller non plus.
Voilà, on est. C'est un autre style. Mm. Mais bon.
Il y a aussi un petit manque de clarté sur une scène fantasmée où j'ai eu du mal à comprendre que c'était une scène fantasmée.
Là, je la vois pas.
Bah, la scène d'arts martiaux. Là.
Ah oui.
Oui, il a fallu que je revienne un moment pour me dire ah non c'est bon c'était une scène fantasmée. Je crois que le passage de la réalité au fantasme est pas très très clair dedans. Sur le dessin, moi j'ai trouvé que c'était beaucoup plus manga déjà que le précédent. Premièrement parce qu'il insiste beaucoup plus sur le côté un peu caricatural, le personnage qui court, qui fait une mimique, etc.
Puis il y a beaucoup de codes dans les accessoires qui sont utilisés qui rappellent du manga.
Oui. Il y a pas mal de codes. Enfin, très beaucoup plus manga au niveau de la narration. Tu vois?
Ouais, je valide.
Tu valides?
Non, c'est clairement ça. Par contre, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de placements de produits dans celui-là.
Malheureusement, je crois
que Spider-Man est dans la place.
Je pense que c'est pas du placement de produit qui lui a rapporté des sous.
Mais bon. Je pense pas non plus. Mais bon, par contre, voilà, le seul truc, c'est le téléphone qui ressemble quand même vachement à un Sam. Wave, j'aurais pas voulu donner la marque, mais c'est vraiment.
Si on est dans un podcast, on peut.
Bon, c'est un Samsung Wave.
Samsung veut nous donner des sous, ils peuvent.
Samsung? Tu penses qu'ils nous écoutent, Samsung?
J'en sais rien. Ou Sony, j'en sais rien.
En tout cas, si vous nous écoutez et que vous voulez nous sponsoriser, n'hésitez pas, hein, on est super fort.
Voilà. Donc c'est vrai que j'étais un petit peu déçu après le 3 instincts, mais on est dans un genre différent, donc faut pas non plus avoir les mêmes attentes, je pense.
Mmh. Ouais, non, mais ça reste quand même un bon bouquin, je l'ai lu avec plaisir. Maintenant, c'est vrai qu'il n'avait pas la même pêche que 3 instincts. Surtout en face, comme tu dis, on ne pouvait pas attendre la même chose non plus. Quoi
qu'il en soit, moi ce que j'attends, c'est on va essayer de rechoper Julien Parra pour le suivre un peu sur son atelier. Je suis très curieux de voir comment ça marche, ce qu'il fait. Il a une activité, je trouve, en dehors de son travail en BD qui est très très bien, et du fait qu'il soit très sympa. Il a une activité que je trouve super intéressante, et donc je pense qu'il faut qu'on essaye de faire genre un hors-sujet avec lui, ça serait plutôt cool.
Moi, t'es manga.
Bonjour, Matt.
Bonjour, Pierrick. Bonjour, les auditeurs.
Alors, comme ça, tu vas nous parler de manga portugais, c'est ça, le José?
Non, raté. Ah, et surtout que tu fais l'innocent, mais tu l'as annoncé dans le dernier One A Club.
Ouais, je sais.
Je sais très bien de quoi j'ai parlé, en plus.
Ouais,
et puis moi, j'ai rempli les petites cases dans ton fichier Google Docs, alors tu peux rien dire.
Ouais, c'est vrai, toi, tu vois les ongles.
Moi, je vois les ongles.
Alors, bon, en fait, tu as changé de sujet, tu vas d'abord nous parler des assistants mangaka, car le héros du manga dont tu vas nous parler tout à l'heure est assistant mangaka, donc tu vas nous parler un petit peu de comment ça marche chez les mangaka.
Voilà, comment ça marche en règle générale chez les mangaka, le travail d'un mangaka et de ses assistants.
Alors moi, je vais juste pour resituer pour les gens qui ne savent pas forcément comment ça se passe en Europe et aux États-Unis, parce que ça, je maîtrise un peu les sujets. En Europe, en général, on a une équipe, la plupart du temps, de 2-3 personnes. C'est rare qu'ils soient plus, souvent ils sont moins. Un scénariste, un dessinateur, un coloriste. Parfois, il y a une seule personne qui fait tout. Parfois, il y a juste scénariste, dessinateur, c'est la même personne. Il arrive qu'ils aient des assistants, pour les plus connus. Par exemple, Tom et Jean-Ri, quand ils travaillent sur le Petit Spirou, ont un assistant qui s'appelle Dan, qui fait la BD Passe-moi le ciel, si je me souviens bien, dans cette stuff, enfin je sais plus. Mais bon, ils ont un assistant qui fait d'autres BD à côté. L'assistant de Midam, par exemple, c'est lui qui dessine Game Over, la série dérivée de Kit Paddle. Voilà comment ça se passe en Europe. aux États-Unis, c'est plus simple. Ils ont un scénariste, un dessinateur, un encreur, un coloriste. Des fois, ils ont un bonus, un dialoguiste. Et puis, ils ont aussi un éditeur qui est là pour dire qu'il faut faire gaffe à ce que Wolverine, il n'est pas dans 4 séries ce mois-ci. Ah si, mais Wolverine, on s'en fout, il fait vendre. Mais voilà le principe, en gros, comment sont réparties les tâches. Au Japon, c'est très différent et c'est toi qui vas nous en parler.
Oui, oui, tout à fait. Mais en fait, pour situer un peu l'état d'esprit, je vais essayer d'expliquer comment ça se passe pour un mangaka par rapport à l'édition d'un manga, etc. Donc la première étape, la première chose à faire, c'est de réaliser un storyboard qui s'appelle Nemu, là-bas. Alors, pas besoin de que ça soit fait avec beaucoup de soin, il suffit que ce soit lisible et compréhensible pour un éditeur. Donc arrive la présentation à l'éditeur et en fait c'est lui qui fait la pluie et le beau temps. C'est en règle générale en fonction de la demande des lecteurs. Si les lecteurs font confiance ou ont envie de suivre ce genre d'histoire, le mangaka a la confiance de l'éditeur et continue. Si il y a une baisse du suivi, eh ben l'éditeur dit gentiment à ce mangaka de terminer sa série. J'en avais parlé pour Psyrène à l'époque, je sais pas si vous vous souvenez.
Oui. Un des rares auteurs qui apparemment arrive à faire un peu ce qu'il veut dans les grands publics, c'est Urasawa. Et on en reparlera bientôt.
Urasawa, il y avait à l'époque Antomo, il y avait Tatsumi, il y avait tous ces grands noms du manga, là pouvaient faire un peu ce qu'ils voulaient. Toriyama aussi faisait un peu ce qu'il voulait parce qu'il avait un public qui était suffisamment fervent et suffisamment de fans derrière lui pour pouvoir, entre guillemets, cette fois imposer sa loi.
Oui, puis avec ce qu'il devait gagner pour Dragon Quest.
Oui, en plus. Donc, une fois que l'éditeur a donné son aval et qu'il autorise la pré-publication, il donne en général un mois de délai pour le premier chapitre qui fait en général une quarantaine de pages. Et là, c'est la course contre la montre pour le mangaka, qui doit réaliser ce qui s'appelle le Genko Wokaku, qui est la phase de réalisation à proprement parler du manga. Et en fait, c'est là qu'il dessine toutes les planches. Alors le dessin est en règle générale fait à l'encre, et le texte au crayon papier, puis est envoyé à l'éditeur qui remet ça correctement, qui fait son travail d'éditeur pour la pré-publication.
Parce que c'est toujours prépublié en général. Je pense que c'est rare que ça sorte
directement. Je crois que c'est toujours prépublié. Je voudrais pas dire d'annerie, mais
bon, j'imagine qu'il y aura quelques rares cas de trucs d'auteur, mais bon.
Voilà. De ma connaissance du manga, c'est toujours prépublié. Il faut savoir, point rigolo, c'est que s'il y a la moindre erreur dans la page, c'est toute la planche qui est à reprendre.
Et comme ils font direct à l'encre.
Et ils sont direct à l'encre. Donc bon, d'accord. Je te laisse imaginer le travail qui est fait.
Oh putain, j'ai foiré mon tramage.
Et voilà, c'est un peu ça, ouais.
Bonjour monsieur Otomo, sur votre scène de destruction massive de la ville, là il y a une vitre, elle est mal faite. Vous savez, sur les 2 millions que vous avez fait dans le bâtiment.
Oui, bah oui, voilà, c'est à peu près ça, oui. Et surtout que ce qui est très drôle, c'est que là, c'est qu'un pas, il a un pas.
Quoi, tu dis, pardon, fait, on a toujours ce son de merde. Oui, tu disais, pardon, on a toujours ce son pourri, donc, mais c'est pas grave. Continue, je t'en prie.
Donc je disais, cet état de fait, cette course contre la montre, ce qui est rigolo, c'est qu'elle a lieu chaque semaine. Parce que chaque semaine, après, il doit fournir entre 18 et 20 pages par chapitre. Sachant que, de la même façon que pour un podcast, pour un manga, c'est encore plus vrai, la régularité est très 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 importante. Parce qu'il y a tellement de monde qui attend une prépublication que si un auteur ne prépublie pas dans les temps, bah potentiellement c'est quelqu'un d'autre qui va prendre le morceau de libre dans le
magazine.
Dans le magazine. Et
surtout qu'il y a des votes pour savoir ce qui reste et ce qui ne reste pas. Comme ils avaient tenté de faire sur Akiba Manga.
Oui, tout à fait. Donc il faut savoir que pour le mangaka et ses assistants, ça représente en règle générale, d'après ce qu'on peut en voir, une moyenne de 15 heures de travail par jour.
Ils font quoi les assistants? Parce que c'est ça qui est intéressant.
Ah là, j'y arrive.
Il fait quoi le mec et ils font quoi ses assistants?
Alors, le mangaka, il y a deux possibilités. Soit il travaille seul à domicile, soit il travaille en atelier où il a des assistants pour le seconder dans sa tâche. Chaque assistant a en règle générale une spécialité. Il y a celui qui fait l'ancrage à proprement parler, celui qui s'occupe des trams, celui qui gère les paysages et des fois, dans certains cas, c'est une équipe complète. Et là,
je crois qu'il y avait un assistant spécial pour faire les corbeaux dans Nicky Larson.
Ouais, tout à fait. Moi, je pensais plus à Kira, justement, des scènes de bâtiments, de destruction massive, etc. Où là, en général, il y a souvent sur ce genre de choses, il y a une équipe complète qui s'en occupe. Et après, il y a même certains assistants qui peuvent aider le mangaka en réalisant directement le dessin en parallèle avec le mangaka.
C'est-à-dire, il dessine aussi les personnages principaux, etc.
Il dessine aussi les personnages principaux et participe à la réalisation graphique du manga.
Par contre, tout ce qui est découpage, mise en forme, etc., c'est le mangaka qui s'en occupe en amont, j'imagine.
Tout à fait, tout à fait. Ouais. Bah, justement, tu m'offres une transition parfaite avec, justement, quelle est la plus grande qualité d'un mangaka ? La plus grande qualité d'un mangaka, contrairement à une idée reçue, c'est pas le fait de bien savoir dessiner. C'est le fait d'avoir des idées originales, de savoir se renouveler, d'avoir une technique de la mise en page importante, parce que justement, ça participe à la lecture et au fait qu'un manga va être accrocheur ou non. Je le dis souvent, c'est très fluide, c'est très dynamique, c'est quelque chose qui est très important. Et un des derniers points qui est nécessaire pour devenir un bon mangaka, c'est le côté leader. Il faut garder une équipe soudée et motivée, malgré les efforts demandés. Et là, je parlais de 15 heures par jour, sachant que le mangaka doit superviser la réalisation de ses 20 pages.
On le voit parfois dans les petits bonus à la fin des mangas, où tu as les assistants qui dessinent directement des trucs rigolos.
Voilà,
ils sont torturés en général.
C'est exactement ça, parce que ils ont 15 heures de boulot par jour. Le mangaka, il est là pour superviser le travail, pour fournir le storyboard de la semaine d'après. Bref, c'est pas un boulot qui est super évident. C'est vraiment un sacerdoce, quoi. Peu de mangaka arrivent à en vivre.
D'accord. Ok, donc c'est un portrait assez intéressant qui permet un peu de voir les conditions de boulot. Tu vois, rien que pour ça, je pense qu'il va vraiment falloir que tu nous trouves un José, même pas bon, hein, un José, pour nous un en José, parler, ouais. Par respect pour ces gens qui souffrent pour faire ces bandes dessinées-là.
Exactement, c'est bien voilà. Pour ça qu'en règle générale, j'essaye de chroniquer des mangas appréciés qui ont une qualité, parce que
oui.
il faut voir le travail qui est derrière. Et,
oui, mais même pour un truc pas de qualité, il y a du travail derrière. C'est
ah
ça
oui,
qui...
bien sûr. Psyrène, dont j'avais parlé la dernière fois, où j'avais dit que c'était pas mon coup de cœur, c'était pas vraiment un coup de cœur pour moi. Comme je disais, il y a de très très bonnes qualités, il y a de très très bonnes idées. Et c'est clair que il faut rendre à César ce qu'est à César, le travail d'un mangaka et de ses assistants. C'est toute une équipe en général. On parle que d'une personne, mais souvent c'est une équipe qui le suit. C'est un boulot de fou.
Ok. Et donc, pour illustrer cette histoire d'assistant de mangaka, apparemment, tu ne vas pas nous parler de Bakugan, qui aurait pourtant été vachement bien dans le sujet. Tu vas nous parler de quelque chose de tout nouveau.
Oui. Très récent, oui, en effet.
Voilà, qui vient de sortir le mois dernier, je crois bien.
Oui, c'est ça, oui.
I'm a Hero. Qu'est-ce que c'est que ça ?
Alors, I'm a Hero, c'est un seinen de Kengo Hanazawa, qui est édité chez Kana. Alors, actuellement, en France, il y a 2 tomes sortis. Et les 2 sont sortis sensiblement en même temps. Et 8 au Japon, c'est une série qui est en cours. On suit la vie de Hideo, un aspirant mangaka. Qui est assistant d'un mangaka qui fait dans le hentai.
Ouais.
Et ça.
Tu nous as pas encore parlé du hentai.
Non, je me réserve ça pour l'épisode 69. Sa vie en elle-même pourrait être le thème horrifique de l'histoire, en fait. Pour te résumer sa vie, il n'y a aucun de ses némous qui semble trouver la grâce des éditeurs. Sa petite amie lui parle sans cesse d'un ancien assistant mangaka, du mangaka pour lequel il travaille, qui est en train de devenir un des plus grands auteurs de manga du moment. Avec un petit détail
sympa. Il devient un des plus grands auteurs de manga, tu disais, pardon ?
Du moment.
D'accord, ouais.
Ouais. Et un petit détail, ça reste un détail, c'est l'ex de sa copine. Il est sujet à des hallucinations diverses et à des terreurs nocturnes qui font qu'il est obligé de passer par une routine de protection, de cercle de protection pour pouvoir s'endormir.
Ça a l'air super, pas super intéressant ton truc pour le moment. Ça a l'air d'être une histoire d'un malade mental.
Et le plus drôle, du moins, malade mental, non, si. On va dire que c'est une personne qui est enfermée dans la complainte sur sa vie et sur sa vie désastreuse et qui, au fur et à mesure, ben, ne se rend au final même pas compte des éléments de plus en plus étranges qui l'entourent.
Ah, il y a des choses étranges. Voilà où est l'intérêt.
Et donc, l'intérêt, c'est que justement, petit à petit, on verse dans un... Ouais, mais je vais garder ça pour le scénario. Je vais plutôt parler du dessin maintenant.
Vas-y, dessin.
Le dessin, il est précis, travaillé. C'est des visages réalistes et il est très réel. Les personnages sont mal rasés, ils ont des imperfections, ils ont des poches sous les yeux, ils sont gros, ils sont. On sent le côté très 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 réaliste.
Ouais, c'est pas que des images d'Épinal, quoi.
Ah non non non, c'est pas. Et puis. Il y a justement quelque chose qui me faisait sourire dans certains shonen. Là, le personnage va changer de fringue, il va justement porter une attention particulière sur sa casquette. À un moment, il y a une soirée, il va chercher quelle fringue va avec quelle autre, etc. Donc, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment ancré dans la vie réelle. C'est, oui. C'est pas Naruto qui va porter le même blouson qui fasse froid, qui neige, qui pleuve.
Oui. Le blouson qui maintenant doit être rigide et il peut l'utiliser pour détecter le camouflage.
Exactement. Au niveau du fond des pages, il y a un truc qui est sympathique que j'apprécie grandement, c'est que le fond évolue en fait en fonction de la tension du personnage et de la tension du récit. Plus il y a une tension forte, plus le fond devient noir.
Ouais, il utilise vraiment les décors et
mais l'ambiance. Mais là, il utilise même le bord des cases.
Comme un arrière-plan narratif. Ouais, pour remettre.
Ouais, comme un arrière-plan narratif, oui, tout à fait. Et du coup, c'est super sympa.
Le scénario, qu'en as-tu pensé?
Le scénario. Bon, alors, le premier volume est relativement déroutant. Quand j'ai lu I Am a Hero, j'ai pas pu m'empêcher de penser à I Am a Legend.
Oui. En plus, le film ou le roman?
Le film. J'ai pas lu le roman.
Le premier ou le deuxième?
Hein? Il y a un deux?
Non, non, tu n'as vu que le 2, je pense. Tu n'as pas vu l'original avec Charlton Heston.
Ah non, non, je parle du film avec Will Smith.
Ah d'accord.
Excuse-moi, je suis un culte. Hein. En plus de ça, pour continuer sur mon explication, en plus de ça, c'est vrai que sur Kana, il te présente ça comme un manga avec des zombies.
Donc, tu n'as pas beaucoup parlé de zombies là pour le moment.
Non, mais justement, c'est tout le premier volume, les zombies n'apparaissent pas du tout. Et du coup, au contraire, j'ai été vraiment très dérouté. Justement, j'ai été très dérouté par le premier volume parce que le côté horrifique il y était, le côté dérangeant il y était, mais c'est par le personnage que c'était déroutant et que c'était assez difficile, assez. Du côté un peu seinen. Et justement là, sur le coup, j'ai un fait contre
Anna. Pardon, vas-y, reprends, excuse-moi. Toujours notre son, excusez-nous, chers auditeurs. Tu disais donc.
Donc je disais, j'ai un peu fait la trogne contre Kana parce qu'ils ont fait un très bon teasing et on voit des zombies assez souvent dans le teasing et le premier volume, on
que
est.
Que dalle.
Non, que dalle. Si les dernières pages, et là encore une fois. Quand vous faites un teasing, spoilez pas le premier volume en entier, quoi.
Ah, c'est après toi, pourquoi est-ce qu'ils les sortent par deux en général
Ouais, je pense que là, il y a eu un gros travail aussi de réflexion d'édition, parce que c'est vrai que le premier, je pense que certaines personnes se seraient arrêtées là.
D'accord.
Le héros est vraiment très 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 loin du héros de Walking Dead. Il porte en lui une noirceur vraiment dérangeante et il est très très loin du héros qui va trouver en lui les ressources nécessaires pour sauver la
vie. T'as pas fini Walking Dead, toi?
Ah, j'en sais rien, mais j'ai même pas lu Walking Dead, mais je vous en parlais souvent. C'est pas, il est plus dans le rôle du spectateur qui fuit ce qui lui arrive, qui voit des gens.
Il va pas prendre la direction des choses.
Ah non non, il va pas prendre le risque de se mettre en danger pour sauver quelqu'un.
Oui, c'est qu'un assistant après tout.
Oui, voilà. Et justement, tu disais, c'est une personne qui est complètement folle, etc. C'est à tel point bien écrit. En fait, je me suis rendu compte dans une deuxième lecture que c'est tellement bien écrit qu'au bout d'un moment, on se dit, mais attends, c'est tout ce qui se passe là. Est-ce que ce serait pas simplement la folie du héros?
Tu ne nous diras pas si c'est ça.
Non, je vous dirai pas si c'est ça parce que moi-même, je le sais pas.
C'est une ongoing, c'est une série qui continue.
Elle est en cours. Il y en a 8 tomes au Japon actuellement. Et donc, je pense que ce qui se passe.
Ouais, tu penses que.
Je pense que ce qui se passe réellement. C'est pas la folie du héros, mais il y a des moments où je me pose la question. Quoi.
D'accord. Prévu en animation ou pas encore?
Je ne sais pas. C'est récent en France. J'ai pas eu vent d'animation sur I Am a Hero. Je sais pas, je.
D'accord.
Je pourrais pas te répondre là-dessus.
Ok, en tout cas, ça a l'air super sympa. Toi, tu es conquis, tu vas te choper la suite, c'est ça?
Je pense, ouais, parce que clairement, malgré un thème qui est assez récurrent et fréquent en ce moment, des zombies, on en voit partout, c'est quand même un manga qui a réussi à trouver sa place. Et c'est vrai qu'une fois passé le côté dérangeant des personnages qui sont très, voire même trop humains.
Mais c'est peut-être ça qui fait la...
c'est ça qui
que
fait
ça passe.
Voilà. Oui, c'est ça qui fait que ça passe, mais c'est aussi ça qui fait que c'est très, 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 très dérangeant. Typiquement, le héros, il a des réactions où il y a certaines fois où t'es en désaccord avec lui parce que tu te dis non, mais là, c'est pas possible. Et puis, il y a des fois, t'es en désaccord avec lui parce que tu te dis mais punaise, c'est moi qui l'ai en train de décrire, quoi.
D'accord, ça a l'air tout sympathique tout ça. Bon, c'est le mois prochain que tu nous parles du manga portugais?
Exactement, oui. Oui. Il faut que j'arrive à trouver le temps de me plonger dedans. D'ailleurs, je profite du fait que je sois à l'antenne pour m'excuser auprès des gens qui me suivent sur Twitter. C'est vrai que je suis plus très très actif en ce moment. J'ai une vraie vie qui est très prenante en ce moment.
Ouais, bon, rassure-toi,
si
on en
je pense 2-3 mois, 2 mois peut-être, ça ira, je pense mieux.
Tu auras toutes tes nuits pour tweeter.
Exactement.
Bon, eh bien, merci pour ta chronique. On se retrouve le mois prochain et à bientôt. Ciao.
Ciao.
Hors sujet. Comme annoncé longuement, nous allons enfin pouvoir lâcher les deux meuporgers qui ont.
Déjà, d'un top, tout de suite, c'est un ratum, c'est pas un meuporg.
Oui, ce n'est pas un meuporg, non mais vous êtes des meuporgers quand même. Qui vont nous parler d'un jeu qui a été longuement attendu, qui fait que je pense que les serveurs de World of Warcraft ont un petit peu été trinqués en ce moment. C'est Diablo 3, c'est notre hors-sujet, et donc je n'y ai pas joué, je vous écoute tous les deux sur Diablo 3. Alors qu'est-ce que c'est? Diablo 3.
C'est un jeu.
Waouh, trop bien.
Et... un jeu vidéo.
C'est un jeu vidéo qui, en fait, c'est un jeu éducatif de sport pour te muscler l'index.
C'est ça. Ça fait partie de cette gamme de jeux qui, en version traduite française, s'appelle Frappe-les tous.
Ouais.
Défonce-les tous. C'est, donc, on peut avoir un scénario finalement assez clair, rien que par le genre du jeu.
Alors, si je me souviens bien, le scénario, c'est Diablo, c'est un démon, il est méchant, et en fait, il essaie d'envahir le monde, et vous devez le descendre.
Bref, on va revenir aux bases du 2, 3 des démons principaux se sont échappés, dans le 2 on arrive à les clôturer, avec l'aide d'un archange qui s'appelle Tyrael, mais qui pour faire ça corrompt la pierre monde en plongeant à l'intérieur son épée qui est absolument bénie, sainte et tout ce qu'on veut. Et du coup, en fait, on va apprendre dans le scénario, je débute le jeu, j'ai pas encore atteint la fin du jeu, mais on va apprendre quand même pas mal de choses justement sur la hiérarchie des archanges, sur Tyrael, et sur la suite du monde où deux nouveaux gros démons se sont enfuis.
Attends, moi j'ai joué Coin, ils ont embauché un scénariste depuis?
Et depuis, ils ont même sorti des albums, des bouquins, etc. Qui racontent des histoires.
Le 1, c'était vraiment le démon va sortir de son truc, allez lui dater la gueule. C'était le scénario. Hein.
Ah, mais là, c'est. Enfin, c'est toujours pareil. Hein.
Oui, au final, c'est pareil, mais ils ont mis une sorte de fond, de background pour justifier tout ça.
C'est ça.
Donc, en gros, c'est le jeu où on clique sur la souris pour tuer des monstres.
C'est exactement.
Il faut toujours avoir une souris de secours. Hein.
Voilà.
Et ne pas utiliser une souris sans fil.
Donc.
Parce que le changement de batterie peut te tuer.
Ah, qu'est-ce qui fait que ce jeu... Bon, il était très attendu, parce qu'il a fallu, je crois, 15 ans avant que... Il y a eu 15 ans entre le 2 et le 3, je crois.
Ouais, à peu près. Voilà. Je dirais ça... Un peu moins que ça. Mais non, mais si, parce que... Non, parce que toi, tu comptes les extensions.
Ah oui.
Voilà, oui, non, il y a eu...
Entre Diablo 2 et Diablo 3, oui, il y a eu au moins ça.
Voilà, donc c'était un jeu qui était très, très attendu. Qu'est-ce qui fait qu'il est exceptionnel?
Déjà que c'est un petit peu la Madeleine de Proust de beaucoup de joueurs de PC. Mmh. C'est le souvenir de longues nuits passées à farmer. Le premier farmage, en fait. Hein. Voilà, je crois que c'est ça, en fait. C'est quand tu refaisais 50 fois le même boss, parce qu'en plus, dans Diablo 2, il y avait un petit cheat que tu pouvais récupérer ton personnage, vendre tes objets ou relooter les mêmes choses. Enfin bon, c'était...
Multiplier
les objets un nombre de fois incalculable, parce qu'en fait, tu avais les sauvegardes des personnages étaient sur ton ordinateur et du coup, tu pouvais les changer, les déplacer, ainsi de suite. Enfin bon, tout un truc. Mais voilà, je pense déjà... La mémoire collective fait que c'est un jeu mythique. Et là, le Diablo 3, c'est toujours aussi addictif. Et là, j'avoue, je suis déjà à l'acte 3 sur 4.
Question con. Il y a eu plein d'autres jeux à la Diablo, des Diablo-like qui sont sortis entre-temps, qui, paraît-il, étaient très très bien aussi. Vous n'y êtes même pas intéressé?
Les autres hack and slash, puisque bon, le terme générique, le genre, c'est hack and slash, qui sont sortis, n'ont jamais été à la hauteur... Il y a quelque chose de magique dans Diablo, c'est indéfinissable. Mathieu parlait de, enfin, Thio parlait de la Madeleine de Proust, c'est un peu l'idée. Mais au-delà de ce souvenir, on est dans une ambiance très particulière. Moi, j'ai essayé de jouer à d'autres hack and slash, Titan Quest ou Sacred, où ils ont sorti deux versions. D'une part, là, on est dans une orientation MMORPG, même si ce n'est pas un MMORPG, mais on est dans du communautarisme. Derrière, on essaie de jouer en groupe. C'est l'objectif final. Hein. On peut pas faire la campagne en solo, mais derrière, le but, c'est quand même d'essayer de jouer en groupe. Mais voilà, il y a quelque chose de magique dans Diablo, au niveau de l'ambiance, au niveau des musiques, au niveau des scènes animées, parce qu'il faut quand même l'avouer, Mathieu, il y a des animations, vraiment des petits films d'animation entre chaque acte et même à l'intérieur d'un acte, d'une scène à l'autre, qui montre un jeu fignolé dans
bizarre,
le coin,
ils ont toujours été
au niveau, de l'esthétique.
Mais oui, ça, depuis le temps qu'ils bossent dessus, ils avaient intérêt à ce qu'ils soient fignolés dans les coins au niveau de l'esthétique.
Absolument, mais alors le Diablo 2, par exemple, était extrêmement en retard sur la qualité graphique. Il était sorti, Diablo 2, en 640x480. L'extension Lord of Destruction permettait... on monte à 800x600. C'était esthétiquement moche. Addictif, mais moche. Là, la première chose moi, qui m'a frappé, et j'avais un petit peu peur, c'est vraiment la qualité esthétique quand même du jeu, d'une part au quotidien, sur le jeu en lui-même, mais aussi et surtout sur ces petits interludes vidéo.
Et là, pour le coup, moi, j'avoue qu'en finissant l'acte 1, je suis resté à peu près sur le cul de voir le visuel de la petite histoire qu'on a sur Tyrell, quoi, mais
bon, les critiques au niveau des serveurs qui suivent pas.
Alors, les critiques au niveau des serveurs, c'est que bon, là, c'est la critique de Blizzard elle-même, quoi, hein, c'est que nouveau jeu attendu depuis X années par un nombre énorme de joueurs par un nombre énorme de joueurs. Le jour de la sortie, Blibli, avec la thune qu'ils se font, ils ont pas été capables de se dire bon. Allez, le serveur d'authentification, je pense qu'il va quand même avoir du monde qui va venir le voir.
Oui, parce qu'on est obligé d'être connecté pour jouer.
Oui, obligé de staguer pour jouer. Donc du coup, il faut éviter le piratage des jeux.
Ah oui, mais bon, c'est super. Donc en gros, tu es dans le fin fond du Larzac avec un ADSL de merde, tu joues pas, quoi.
Si, tu peux jouer, parce que tu as juste besoin de faire ton idée tag dessus, et après le reste, tu t'en fous, quoi.
D'accord, et donc là, il y a un bulldozer qui a fait tomber ta ligne téléphonique, t'es dans la merde.
Ah oui, parce qu'il faut quand même que tu sois connecté tout le long du jeu. Mais bon, le problème, voilà, c'est que connexion, donc le jour où ça sort, tu peux pas parce que le serveur est down, quoi. Et d'accord. Du coup, ça, c'est que, enfin, je trouve, c'est vraiment se foutre de la gueule des joueurs. Les mecs, C'était le même problème sur WoW au début.
Pourtant, ils avaient fait un test de sur les serveurs. Ils avaient pris le devant en faisant une bêta ouverte sur un week-end, quoi.
Oui, mais sauf qu'une bêta ouverte, tu l'ouvres à combien de personnes et alors que
ah non,
tu
sais c'était
que
ouvert sur un week-end. N'importe qui pouvait se connecter. Tu pouvais y jouer
à volonté. Oui, mais sauf que t'as pas tous les joueurs qui vont aller sur les bêtas parce que t'en as beaucoup qui préfèrent attendre d'avoir directement le jeu. Mmh. Ils veulent pas avoir un jeu où tu vas encore avoir des bugs. Ils veulent profiter vraiment du jeu fini, quoi.
Mais je pense que la bêta ouverte c'était pas pour tester les bugs, c'était pour tester les serveurs.
Ben oui, mais c'est de la merde. Alors l'intérêt serait.
Je confirme justement sur l'histoire de la bêta. J'ai essayé pendant tout le week-end de me connecter pour la bêta. Je n'ai jamais pu jouer à la bêta. D'accord. Jamais. Donc, et donc le jour de la sortie, il sortait donc dans la nuit du lundi au mardi, minuit une, j'étais devant mon ordinateur et il a fallu que j'attende plus d'une heure et demie du matin pour arriver à me connecter. Inutile de dire que sur les forums, ça balançait bien sévère sur Blizzard. Alors avec bien sûr des gros anti-trollers au milieu qui disaient « Ouais, mais les gars, vous avez qu'à attendre, ça fait 8 ans qu'on attend, on n'est plus à une heure près. » Soit, sauf que quand on paye un jeu, d'une part, plus cher quand on l'a acheté online que quand on l'achète en boîte. Voilà, pied, j'étais sûr que tu allais réagir à ça. Il y a entre 15 et 20 euros d'écart pour les gens qui l'ont acheté en ligne sur le site de Blibli et les gens qui sont allés le réserver à la Fnac ou au Virgin.
C'est quoi cette blague ?
C'est une mauvaise blague. Moi, personnellement, jouant à WoW, j'ai pris un abonnement de 6 mois pour l'avoir gratuit, donc je vous avoue que de ce point de vue-là, je me suis pas senti floué. Mais
as-tu c'est quand même gratos le Diablo 3 si tu as 6 mois d'abonnement à WoW ?
C'est ça, parce qu'en fait, il y avait une offre. Pas 6 mois. Si je m'engageais pendant un an à payer mon abonnement WoW, puisqu'il y a un abonnement mensuel à WoW, alors qu'à Diablo 3 il n'y a pas d'abonnement mensuel, on m'offrait Diablo 3 gracieusement. Donc merci Blibli de m'avoir offert gracieusement.
Enfin, l'abonnement était proposé il y a de ça presque 6 ou 8 mois maintenant. Donc d'accord. En fait, c'était si vous êtes joueur de WoW, continuez à jouer à WoW pour l'instant et vous aurez, quand il sortira, Diablo 3 gratuit. Donc quelque part, si tu veux, moi je sais que Diablo 3, j'ai pas eu l'impression de l'avoir acheté, quoi.
Oui, non, mais le coût de payer plus cher le online que le physique, quoi.
Clairement, c'est juste.
C'est-à-dire qu'en gros, j'imagine que pour le prix du online, tu pouvais avoir une édition collector en physique, c'est ça?
Oui, j'ai plus les tarifs exacts en tête, mais dans l'idée, c'était un petit peu. Bon, l'édition collector était quand même pas donnée, hein, mais bon, oui, elle est bien fournie aussi. Pour en revenir donc au jour J, se connecter au serveur, c'était juste impraticable. Le serveur monde a quand même réussi à planter. Donc là, on a le serveur européen qui était complètement down. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on crée ses personnages sur le serveur européen, on ne peut pas jouer avec sur le serveur américain. Par contre, je peux très bien aller jouer sur le serveur américain, mais il faut que je me recrée de nouveaux personnages sur le serveur américain.
Oui.
Voilà. Donc je peux très bien jouer avec mes copains américains, mais avec mon personnage qui sera que sur le serveur américain et ainsi de suite avec le serveur euro et le serveur
asiatique.
Voilà. Alors il y avait des petites blagounettes qui étaient là pour dire que ça éviterait aux Chinois de venir farmer le jeu sur les serveurs euro et américains. Bref, toujours est-il que effectivement au rang des reproches, ça en fait partie. Je parlais tout à l'heure de l'esthétique du jeu. Effectivement, c'est très soigné, sauf certaines petites choses. Les cartes, c'est très archaïque. Les textes, les fenêtres de texte sont très archaïques. Y a plein de petits détails comme ça sur l'esthétique de l'interface qui seraient dignes d'une bêta, mais qui sont pas fignolés dans les coins.
Là, je pense que c'est plus ton avis en fait qui fait. Enfin, toi, tu dis voilà, ça me plaît pas comme c'est. Mais moi, je trouve que ça rentre tout à fait dans le style du jeu et que c'est pas. Bon. Moi, ça me choque pas en tout cas.
Pour en finir avec ces erreurs, il y a eu des blagues qui ont été faites.
Pour finir quand même sur Diablo 3, parce qu'on a quand même pas terminé. Voilà. Donc, le jeu, on peut jouer 5 classes différentes, un barbare, un chasseur de démons, une sorcière, un moine et un féticheur. Donc, bon, les noms sont un féticheur. C'est un nécromancien en fait. Voilà. Et donc les 5 classes vont avoir des pouvoirs particuliers, des arbres de talent, des talents achetés au fur et à mesure. On change son équipement, on gagne des pecs, on gagne de l'or. Juste un petit truc quand même qui est sympa pour les joueurs qui ont plusieurs comptes, qui ont plusieurs personnages, on va dire, c'est que certaines parties du compte sont communes à tous les personnages. Donc par exemple le coffre.
Ouais.
Et est commun à tous les personnages, donc du coup pas besoin de se les envoyer par poste comme on faisait sur WoW. Et les artisans qu'on fait EP, qui vont gagner eux aussi des niveaux en donnant de l'or, en donnant des compos pour faire des objets de plus en plus chers, de plus en plus recherchés, quoi, rares, épiques. C'est pareil si on les achète sur un compte d'un personnage. Tous les autres personnages ont les les artisans du même niveau, ce qui fait que ça évite, quand on a plusieurs persos, de remonter à chaque fois les compétences d'artisanat.
Oui, c'est le truc que tu peux faire sur un jeu, on va dire entre guillemets solo, mais pas sur un jeu.
Bah, disons que c'est ce que du coup sur WoW par exemple, tous les personnages étaient obligés de faire.
Oui, mais ils peuvent pas faire ça sur WoW parce que ce serait injuste par rapport à ceux qui débarquent et compagnie. Oui. Pour en finir, juste pour dire que ces erreurs 37, parce que c'est le nom de l'erreur de connexion, ont beaucoup fait rire.
Ouais.
Sur les serveurs de Eve Online, justement, sur le petit écran T au moment où ils se connectent, etc., ils ont mis un petit message pour dire 37, pour nous, c'est le temps en secondes qu'il faut pour se connecter sur nos serveurs, ou un truc dans le genre. Merci de nous avoir écoutés.
Merci beaucoup.
Merci d'avoir été présent.
Aussi.
N'hésitez pas. Alors, j'avais promis de lire des courriers des lecteurs dans nos prochaines émissions.
C'est ce qu'il avait dit dans l'épisode 53.
Ouais, oh putain,
qu'il devait faire dans l'épisode 54. Mmh. Et donc là, dans l'épisode 55, il ne l'a toujours pas fait. Dans l'épisode 56, il vous redit qu'il va vous lire.
Suite à des changements de dernière minute, je ne suis pas exactement là où je devrais être avec le matériel que je devrais avoir. Donc j'ai enregistré des trucs à lire et tout, à imprimer comme il fallait.
Parce que là, on est chez Isaac, en fait.
On est à bord du Pacific Princess.
Voilà. Eh bien, come aboard. Nous disons au revoir. N'hésitez pas quand même à laisser des commentaires, je virerai tout ça un jour.
Et voilà, c'était Isaac.
Au revoir à tous. Ciao.
Et tout de suite, nous allons parler donc de
Manga
Picsou. Après McDonald's, mais quick et tout. Eh oui, celui-là, tu ne l'as pas enregistré.
Si, c'est enregistré.
Non.
Si.
Ah, bon, voilà.
Allez, fais la transition.
Tout ça, c'était une vieille blague que tu viens de Marc, quand t'es
la blague de Thio.
Donc oui, enfin, là du coup, t'as coupé, mais en fait, donc, c'est Marseille qui va à la chambre de commerce. Et, bonjour, je vais ouvrir un restaurant à Marseille. Bah oui, donc elle a dit, vous prenez peut-être papier, machin. Bah voilà, donc mettez le nom de votre restaurant. Je vais appeler mes couilles Picsou. Quoi? Mes couilles Picsou. Non, attendez, vous pouvez pas appeler à ce restaurant. Mes couilles Picsou, monsieur, voyons. Comment ça, je peux appeler mes couilles Picsou? Je fais comme je veux, mon restaurant. Moi, je vais appeler mes couilles Picsou. Parce que c'est pas bien et tout. Attendez, l'autre, là. Avec le McDonald's, vous ne dites rien.
Bravo.
Voilà, allez, blague marseillaise, hein, désolé.